Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salut, c'est Mimi Hegel, et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi, on débriefe chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de live Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv/MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com/MYMYHGL. Et bonne écoute! Quelle énergie Fabrice Florent.
Ah, alors qu'on a mangé beaucoup trop.
Qu'est-ce qu'on a mangé Fabrice Florent?
Oh là là, mais on a mangé un plat préparé par Nodus, a.k.a. Oui. Le chéri
Valentin,
Mimi.
Valentin, mon amoureux, qu'on embrasse, grâce à qui ce live existe, donc toujours
exactement.
Merci Nodus.
Valentin vient donc du Nord.
Oui,
on a des racines communes.
Oui.
Et donc il a fait un filet mignon.
Il est là, dans le chat. Bonjour Nodus.
Marwal.
Avec son propre émoji de lui en bob.
Ah ouais.
Ce qui est quand même un bonheur. Wow. N'hésitez pas à follow la chaîne de Nodus. En ce moment, il stream notamment du Sekiro, mais aussi du Foxhole, un jeu de guerre qui rend accro. Il est possible qu'il ait streamé 8 heures de Foxhole samedi dernier. Un homme déterminé comme je les aime. Et merci beaucoup, Riot Queenie, pour le sub. Je t'ai vu passer. Merci beaucoup. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue. Je vois qu'il y a des nouveaux et des nouvelles. Welcome. Je suis Mimi. Je suis une grosse nerd des univers créés par George R.R. Martin. Et je suis donc ravie que House of the Dragon soit diffusé. Et du coup, tous les mardis, je fais sur cette chaîne un débrief deep dive de l'épisode de House of the Dragon de la semaine. D'habitude, c'est avec Tequila Tex, mon partner in crime, qui est DJ dans la vie, mais aussi gros nerd de Game of Thrones et des séries dérivées. Aujourd'hui, Tequila Tex est en vacances et c'est Fabrice Florent qui le remplace de nouveau.
Merci de m'avoir invité, Mimi.
Mais merci d'être de retour.
C'est la première fois que je suis en live.
Oui, car la dernière fois, on avait fait un débrief de l'épisode avec Fabrice Florent, qui était, je crois, l'épisode 3. Mais c'était juste en podcast, puisqu'on était au Frames Festival ensemble à Avignon.
Il n'y avait pas.
Et du coup, il y avait très peu
Internet.
De quoi liver. On est back in Paris, Fabrice Florent in the house. On a bien mangé, on est ready, on a bien papoté, on est prêt à parler de House of the Dragon avec vous. Petit rappel, avant toute chose, je vous le fais à chaque fois, mais à chaque fois, il y a des nouvelles personnes, donc c'est important. Déjà, Fabrice Florent, qui es-tu?
Ah
que
là là
dans la vie?
Comment on s'est rencontrés, Mimi?
Ah bah, on s'est rencontrés quand j'avais 20 ans et que j'ai postulé pour être stagiaire chez Mademoiselle, un magazine féminin et féministe créé par Fabrice
moi-même.
Florent.
Voilà.
Du coup, Fabrice a été mon patron pendant 9 ans, puisqu'on a travaillé ensemble 9 ans. Et ensuite, il est parti voler de ses propres ailes. Et c'est devenu mon ami. Bon, ça l'était déjà avant, mais oui. Ça l'est encore plus maintenant.
Voilà. Je crée des podcasts.
Oui.
Dans la vie, des podcasts,
podcasts
d'interview, des podcasts où oui. Je fais parler des pères, je fais parler des mecs, je fais parler des pères de paternité, des mecs de masculinité, des gens de leur rapport à l'argent aussi. C'est assez fascinant.
Oui. Histoire de daron, histoire de mec, histoire d'argent.
Histoire de daronne, etc. Et en fait, j'ai aussi une chaîne Twitch. Twitch si ça vous intéresse de venir suivre. Je vais reprendre du Twitch plus sérieusement.
C'est @ Fabrice Florent, tout simplement. Florent. Et si vous faites !! Film Club tout attaché dans le chat, vous avez une petite info sur un podcast que Fabrice et moi co-animons cette fois-ci de façon régulière, plus régulière que House of the Dragon, où on parle des films qu'on aime voir et revoir et on les débriefe, car guess what? J'adore débriefer des œuvres culturelles, le saviez-vous? On a fait 2 épisodes déjà parus, puisque c'est toutes les 2 semaines, un dimanche sur 2. On a fait Pulp Fiction en premier film, Le premier jour du reste de ta vie en 2e film. Vous voyez déjà un univers étendu assez large. Et on vient d'annoncer le film de dimanche, de ce dimanche. Est-ce qu'on le dit en live ou est-ce qu'on laisse
bien sûr,
okay.
Oui.
Merci beaucoup pour les petits... merci Fabrice d'avoir mis pour l'exclamation Film Club. Ce dimanche, notre épisode du Film Club, c'est sur un film d'automne que j'ai choisi. C'est sur le meilleur Harry Potter. C'est sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de Alfonso Cuarón. Donc, j'ai forcé Fab à revoir un Harry Potter. J'ai revu Harry Potter 3, mais ça, je le fais tous les ans, donc c'était pas dur dans ma vie. Et on débriefe pourquoi c'est le meilleur Harry Potter, source moi. Est-ce que c'est le meilleur Harry Potter, source Fabrice? Le doute est sain dans la vie.
Est-ce que c'est le meilleur film, globalement?
J'ai pas dit c'est le meilleur film. Alfonso Cuarón a fait des meilleurs films, genre Les Fils de l'Homme, par exemple.
C'est vrai.
Mais c'est le meilleur Harry Potter.
J'ai beaucoup aimé Gravity aussi.
Oui, trop bien Gravity. Oui. Oh, l'espace. Pfiou.
Gravity, j'étais en apnée au cinéma.
Bah, je comprends.
Tellement c'était fort.
Mais c'est un peu dur à voir hors cinéma, tu vois. Gravity, le revoir sur un écran, j'ai aucun intérêt
à
faire
ça.
C'est pas un film que j'aime revoir, car c'est pas adapté.
Il y a des gens qui l'ont vu
dans
un avion et ils ont dit c'était pas très bien, j'ai vu dans un avion, j'ai dit mais ça dégage vraiment.
Ce n'est pas conçu comme ça, cette œuvre n'est pas conçue comme ça. Est-ce que c'est pour faire des blagues entre Fabrice et entre Florent et Voldemort? Alors June, love you, mais c'est Fabrice. Et c'est marrant parce que vraiment tout le monde l'appelle Florent ou Fabien Laurent ou plein de choses à part Fabrice qui est son prénom et Florent qui est son nom de famille.
Et on n'a pas fait de
blagues. Je pense que je me suis... Alors, en faisant mes notes, je me suis retenue car les blagues sur la ressemblance entre Fabrice et Voldemort, c'est un peu comme les blagues de chauve aux chauves en général. C'est trop vu et revu et revu. Il faut trouver autre chose, voilà. Find better material, comme dit le même.
Oui.
Anyway, ce Twitch est rediffusé, comme je vous l'ai dit, en podcast. Du coup, vous pouvez vous abonner à House of the Dragon, le podcast de Tequila Tex et Mimi, sur toutes les applis de podcast pour nous écouter et nous réécouter avec passion ou rattraper si vous n'avez pas le temps de passer toute la soirée avec nous ce soir. Et tous les lundis, vous pouvez retrouver sur mon Patreon le récap rigolo de l'épisode de la semaine de House of the Dragon, qui consiste à moi qui prends des captures d'écran de l'épisode et qui écrit des blagues débiles dessus. Je me fais crever de rire personnellement car je suis hilarante. Et il y a pas mal de gens qui ont l'air de penser que c'est marrant puisque les gens s'abonnent. Merci beaucoup à celles et ceux qui soutiennent mon travail, que ce soit sur Patreon, en vous abonnant à la chaîne, en subant à la chaîne bien sûr, ou juste en étant là. Ça fait
pourquoi
plaisir.
Pourquoi les gens s'abonnent pas tous à ton Patreon, tous ceux qui sont ici là? Ils sont combien? Vous êtes combien?
Tous ceux qui le veulent. Je sais pas, j'affiche pas le nombre de gens en live parce qu'après après je suis trop concentré là-dessus.
Ça te trigger.
Ouais.
Okay.
Déjà j'ai mon retour vidéo et du coup je vais passer 2 heures à me toucher les cheveux et à rectifier ma posture parce que je suis zinzin. Et du coup je vais pas en plus me mettre le nombre de gens
parce que
si je perds 50 personnes je vais être là. J'ai arrêté d'être intéressante.
Ah oui non.
C'est pas sain, tu vois.
Non, en revanche,
merci pour le sub, Stéren. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Patreon si vous avez un peu de sous. J'y publie les récaps rigolos, mais aussi d'autres contenus. Et du coup, je vous le dis en exclu, cette semaine, a priori vendredi, je vous sors une compile de petits jeux cosy à faire sur Switch ou sur Steam pour passer l'automne sur des petits jeux vidéo mignons, Stardew Valley-like, vous voyez, mais pas Stardew Valley parce que tout le monde connaît déjà Stardew Valley. J'ai beaucoup de nouvelles addictions en ce moment, donc ça me donnera l'occasion de vous en parler. Abonnez-vous à mon Patreon pour en savoir plus. Et on va donc vous causer de House of the Dragon, épisode 7 de la saison 1, le rapide point spoiler, qui dérange toujours Tequila Tex, mais c'est important de le faire. On va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans House of the Dragon, on va vous spoiler tout ce qui s'est passé dans tout Game of Thrones, potentiellement, on va être amené à en parler, mais on ne va pas vous spoiler ce qui va se passer après dans House of the Dragon, quand bien même j'ai lu le livre Feu et Sang dont c'est adapté, et on va même pas vous spoiler ce qui se passe dans le prochain épisode, puisque moi je regarde pas les trailers dans le prochain épisode, car j'aime bien être surprise. Là par exemple, je savais pas ce qui allait se passer, et j'étais en mode « Oh waouh, il s'en passe des choses !» Et on en causera, mais il y a eu une grosse surprise, y compris pour les lecteurs et les lectrices du livre dans cet épisode, puisqu'il y a un plot twist. Merci beaucoup, Mayananas, pour le sub. Oh là là, vous êtes chou.
Franchement, chapeau pour le récap rigolo de cette semaine.
Ah.
L'épisode était tellement badant que je ne pensais pas que c'était possible de faire autant rire avec, mais
franchement,
tellement.
Franchement, il y a eu des épisodes de Game of Thrones qui étaient plus durs à faire en récap rigolo, où vraiment Sansa, elle se fait violer et tout, et j'étais là.
Ah oui.
Et rappelons qu'il y a des gens qui m'ont dit tu devrais faire des récaps rigolos de Handmaid's Tale, qui est une série où le viol c'est le thème principal. Chaud. Je dis bah non, on va pas faire ça. Mais merci beaucoup, je me suis beaucoup amusée à le faire. Mais ça n'empêche pas que l'épisode m'a plu, puisque je me moque pas tant de l'épisode, je passe toujours un très bon moment devant cette série.
Et merci Omelette Douce, c'est gentil. Hashtag nostalgie mademoiselle.
Back again, reunited and feel so good.
Bah oui.
Qu'est-ce qu'on pense de cet épisode et qu'est-ce qu'on pense de House of the Dragon depuis la dernière fois qu'on en a parlé ensemble, donc il y a une demi-saison.
C'était l'épisode 3.
Les enfants, enfin, Alicent et Rhaenyra étaient beaucoup plus jeunes, les dynamiques étaient bien différentes et Viserys avait plus de membres à son actif. Il en a, rappelons-le, perdu plusieurs.
Il a perdu des doigts, non, c'est tout.
Non, mais là, il a un bras en moins. Son bras gauche, il l'a... Ah bon ? Donc, il avait ses doigts pourris. Après, il a perdu des doigts. Et là, ça fait depuis l'épisode précédent, donc le time jump, qu'il a sa manche et elle est vide.
Ah bon, j'avais même pas capté.
Manchot. Bah, il est très couvert aussi, mais oui. Je pense qu'il est très couvert en bonne partie parce que si on le revoit à nu, on va être là. C'est vraiment trois organes dans un imperméable, quoi. C'est compliqué, merde. La personne. L'homme va mal. Écoute,
donc, alors.
Les choses ont bien changé.
7h30. Je me suis levé à 7h30 lundi parce que j'avais une interview un peu plus tard. Et je me suis dit, j'ai envie de voir l'épisode avant de faire l'interview matinale. Et je me suis levé à 7h30.
Le mec est plus nerd que moi, il se lève plus tôt que moi pour regarder House of the Dragon.
À 8h moins le quart, j'étais devant cette putain de série. Et la veille, je me suis dit, putain, trop bien, demain il y a House of the Dragon. Vraiment,
je l'ai contaminé.
Je me suis étonné.
Mais qui es-tu, Fabrice, finalement?
Je me suis vraiment étonné. Je me suis, pour information, mais j'ai pas trop aimé, moi, Game of Thrones d'une manière générale. Parce que justement, je trouve que ça partait beaucoup trop dans tous les sens. Là où je trouve que le récit est vraiment resserré. Et j'adore vraiment l'idée de se dire, OK, on fait des sauts dans le temps.
En termes de personnages et de sujets, mais en termes de temporalité,
c'est
beaucoup
canon.
Plus large, quoi.
Je trouve ça vraiment génial de voir l'évolution de ces personnages sur un long temps. Je sais pas trop où ça va jusqu'à la fin de, par exemple, de cette saison, mais j'imagine qu'après c'est encore plus loin. Et franchement, je me suis moi-même étonné à être beaucoup trop hypé par rapport à cette série, quoi.
Bah écoute, je suis ravie et je suis aussi ravie parce que je sais que même quand tu ne participes pas à ce podcast, tu l'écoutes. Mmh. Alors que historiquement, mes podcasts de nerd de 2 heures sur Game of Thrones, Fabrice était là, mais pourquoi tu fais ça? Qui écoute ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais après, t'avais plaisir à les faire avec moi, mais en soi, tu serais pas abonné à ce genre de contenu si c'était pas chez Mademoiselle qu'on
les faisait
ensemble.
Après, je t'avoue, est-ce que j'écoute 3 heures de récap avec Tequila Tex? Pas, j'ai pas ce temps-là. Mais en revanche, j'écoute une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi,
ouais.
Tu vois.
Tranquille. Et
en général, vous
n'avez
pas démarré le début de l'interview, mais peu importe, enfin le début de l'épisode. C'est pas grave.
Petite intro. Mais du coup, vous pouvez commencer à 45 minutes et on arrive dans le vif du sujet. Alors, je profite d'un message du chat pour dire un truc que je devais dire. Je dois vous prévenir. Donc, il y a mon Loutms qui dit « Contente de vous retrouver, hello, surtout que je viens de subir un spoil atroce via un extrait de Game of Thrones sur TikTok, donc ça va me remonter le moral. » Alors, faites très attention. Il se trouve que... Je pensais que les gens le savaient parce que ça a été pas mal médiatisé, mais c'est vrai que je vous l'ai jamais dit moi. Dans Game of Thrones, saison 4, il y a un moment où Joffrey, il fait visiter un truc à quelqu'un, Joffrey Baratheon, et il lui dit « Ah là, c'est l'endroit où Rhaenyra Targaryen, blablabla », et il dit la fin de Rhaenyra. C'est comme s'il disait « Ah là, c'est l'endroit où Ned Stark s'est fait couper la tête ». C'est vraiment genre le pire spoiler. Et c'est en random parce qu'en fait c'est l'histoire de Westeros, donc Joffrey il savait pas à ce moment-là les gars de Game of Thrones qu'ils allaient faire House of the Dragon, et du coup c'est un extrait qui spoil en 2 phrases, il est là bam bam la fin, tu vois. Du coup, si vous voyez passer, et apparemment ça tourne beaucoup en ce moment, donc si vous voyez passer une vidéo sur Twitter, sur TikTok, sur Insta avec Joffrey Baratheon, ne cliquez pas car ça va vous spoiler.
Mais sur TikTok, tu peux
pas
faire autrement.
Ah bah je sais pas, j'ai pas TikTok.
Oui, mais bon,
mais après vous êtes pas obligé. Bah excuse-moi, vous êtes pas obligé de.
Ça vient comme ça.
Oui, bah scrollez vite. Je sais pas quoi vous dire. Si vous voyez la gueule de Joffrey, jetez votre retournez votre téléphone. Faites ah non.
Horrible.
Donc désolé que tu en étais victime.
Donc là c'est la fin, de l'histoire carrément, quoi.
Je sais pas, okay. Je vais rien dire parce que bah le bouquin va plus loin, mais il commence avant aussi, donc c'est pas les voilà. De toute façon, on sait qu'il y a des Targaryens après, parce qu'il y a Aerys, le Mad King, qui était le dernier roi Targaryen avant Robert Baratheon. On n'est pas pour l'instant né quoi. Voilà, on rappelle qu'on est environ 150 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen, puisque au début de la série c'était 170 ans avant. Là, on a un bon petit 10-15 ans qui sont passés.
178, donc, non
178 ans. Pardon, donc on est à 160 ans avant Daenerys. Non, mais c'est intéressant de rappeler cette temporalité parce que j'ai ma petite sœur, je l'embrasse, qui m'a demandé est-ce que Aemond, donc le petit gamin là qui perd un œil dans cet épisode, c'est lui le Mad King, donc le grand, je crois que c'est le grand-père ou le grand-oncle de Daenerys. Et j'étais là, non, Daenerys c'est quand même dans 160 ans. Oui. C'est un peu trop tôt. On n'est pas très loin, mais c'est un peu trop tôt. Donc rappelons que pour l'instant on n'a pas des liens hyper directs avec des persos de Game of Thrones et c'est normal. Je suis dans la team probablement qu'il y a Mélisandre qui va apparaître dans House of the Dragon parce que elle on sait qu'elle est très vieille, mais c'est la seule personne dont on sait qu'elle est très vieille et qui a cette magie de longévité. Les Targaryens sont résistants aux maladies, mais ils vivent pas plus longtemps que les autres. Donc il y a pas de raison qu'il y ait un Targaryen immortel qui dure 400 ans.
Mais c'est vrai que c'est un peu comme dans Better Call Saul où tout le monde attendait que Heisenberg et Jesse se pointent, quoi.
Oui.
Tu vois, c'est ouf.
Alors que est-ce qu'on passe pas une belle aventure même sans avoir de perso de Game of Thrones qui arrive? Moi je suis ravie. Oui. Deux petits points rapides pour rectifier des choses de l'épisode précédent et après on se lance. J'avais peur de vous avoir spoilé que Elena a un dragon. Donc Elena, c'est la petite blonde, la fille de Alicent et Viserys. En fait, elle a déjà un dragon qui s'appelle Dreamfire, mais qu'on n'a pas spécialement vu dans la série, à part que c'est celui qui, dans l'épisode précédent, quand Aemond y va voir le gros dragon et qui prend peur, c'était ce dragon-là. Ils ont pas dit que c'était le dragon d'Elena, et du coup, j'avais peur, en disant Elena a un dragon, j'ai eu peur d'avoir spoilé les gens et qu'on aurait peut-être une scène de Elena qui va, du coup, créer un lien avec son dragon. Eh bien non, puisqu'on la voit chevaucher son dragon à la fin de cet épisode. Quand tout le monde part de Driftmark, donc la marque, il y a trois dragons qui volent, et il y en a un de ceux-là, c'est Elena, et HBO a mis à jour son House of the Dragon qu'on avait utilisé la fois dernière pour y ajouter qu'elle a un dragon qui s'appelle Dreamfire, que ça l'intéresse pas trop, elle chevauche rarement, elle s'intéresse pas trop au dragon, mais voilà, elle en a un. Donc je vous avais pas spoilé parce que c'est pas trop un sujet visiblement, elle a un dragon, on s'en fout un peu, mais c'est bien à savoir si vous comptez, c'est bien de commencer à compter il y a combien de dragons de chaque côté, parce que là par exemple le fait que Aemond il ait chopé Vhagar, le plus gros et le plus puissant, on est quand même sur une guerre avec des armes nucléaires, donc c'est pas que des jeux de politique et de descendance et de qui a le trône, on est aussi sur on peut cramer vraiment beaucoup de gens avec des dragons.
J'ai une question. On est bien d'accord que ce dragon-là, c'est le dragon qu'on voit, c'est le dragon qu'on voit dans toutes les pubs, dans toutes les promos, en gros.
Non,
c'est pas lui.
C'est Syrax, le dragon de Rhaenyra. C'est Syrax qu'on n'a pas encore beaucoup vu, mais on est aussi sur une problématique d'une série qui prend longtemps. Pour l'instant, Rhaenyra a pas eu tant d'occasions de se servir de son dragon, et il y a probablement un monde où ils attendent, ils font durer aussi le plaisir, tu vois, ils crament pas toutes leurs cartouches dragon. Okay. Je pense qu'on aura une belle scène de Rhaenyra sur son dragon, comme on l'a eu quand elle est venue défier Daemon quand elle était petite. Mais à voir. Mais c'est le dragon de Rhaenyra. Du coup, Vhagar est beaucoup plus vieux. Il a l'air, il est ridé un peu. Il a l'air un peu ronchon, mamie ronchon comme dragon. Je l'aime trop. Et il est énorme. Il est vraiment extra. Je t'ai dit, c'est un kaiju. On dirait vraiment les bestioles de Pacific Rim, quoi.
En fait, je crois que c'est la première fois. Franchement, je me suis senti con parce que j'ai vu les bras du dragon et je me suis dit, ah ok, il a des bras et en fait il vole. Et il a des.
Quoi? Attends, quoi? Tu croyais qu'il...
Mais pour moi, il avait juste des ailes qui, comme les oiseaux,
ah
quoi,
oui,
tu vois.
Ah oui, non, il a des bras avec des ailes, comme une chauve-souris, plutôt.
Oui, c'est ça. Et je crois que c'est la première fois que je me dis, ok, c'est donc un dragon. C'est
ah, il est stock.
Voilà.
En plus, lui, il pousse à la salle, quoi. C'est
ouais,
un dragon
ça se voit.
Il est stock. Vhagar. Rappelons qu'on ne sait toujours pas comment on finance la bouffe pour autant de dragons, mais I guess.
Il y a beaucoup de moutons.
Ça ruisselle. Ouais, beaucoup de moutons. Ouais, beaucoup, je pense. Beaucoup de prot. Deuxième petit détail, à l'épisode précédent, on se demandait c'est quoi le symbole de Larry Strong, cette petite insecte qu'il a sur sa canne et sur qui fait porter aux hommes dont il a coupé la langue, là, qui le servent. J'ai dit que c'était une abeille, a priori c'est une luciole. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, ça c'est une invention du show. Je continue à penser que c'est surtout une façon de pas trop perdre le grand public, même si ça demande de suspendre un peu son incrédulité de le mec qui va jusqu'à... couper la langue des gens pour qu'ils puissent jamais dire qu'ils travaillent pour lui et il leur met un pins.
Oui.
C'est un peu con. Mais je pense qu'on est dans ce truc et Miguel Sapochnik, un des showrunners de House of the Dragon qui a réalisé cet épisode et le précédent, n'est pas toujours connu pour sa subtilité. Et il est plutôt connu pour des trucs qui sont visuellement très forts, mais qui se tiennent pas forcément à 100% en termes de cohérence. Donc moi, je l'interprète comme ça. Mais on verra ce qu'il en est. Peut-être que cette luciole va avoir une importance plus tard.
C'est une luciole ou un cafard?
Une luciole. Okay. Et il y a un petit rond au bout un peu plus jaune, mais c'était pas hyper clair comme c'est assez stylisé. Nodus pose la vraie question. Comment est-ce que les dragons font caca? Où est-ce qu'ils font caca? Combien ils font caca? Écoutez, nous n'avons pas de réponse à ces questions. Encore une fois, nous en savons trop peu sur la vie quotidienne avec les dragons, la dragonnerie au quotidien. Nous ne savons pas, donc dans C'était dans Trial by Content, un de mes podcasts préférés sur House of the Dragon. Ils font souvent des débats débiles, et du coup, bah, ça s'appelle Trial by Content en référence. Je suis en train de partir loin. Oh, Trial, comment ça se dit, by Champion. Quand Tyrion dans Game of Thrones, il dit, le procès, ce sera un jugement par champion, je choisis un champion, et c'est les dieux qui
décident. Mise à mort, machin.
Et du coup, ils font toujours des débats, et ils font voter leur public, et à l'épisode d'après, ils voient qui a gagné. Par exemple, qui est le plus gros fuckboy de House of the Dragon? Est-ce que c'est Kristen Cole? Est-ce que c'est Daemon? Etc. C'était un vrai sondage qu'ils ont fait. Okay. Il y a Joanna Robinson dedans, on l'adore. Et ils ont eu un très long débat d'au moins une demi-heure sur les cacas des dragons. Où est-ce qu'ils font caca? Est-ce que parfois ils font caca en vol? Et du coup, bah, si t'es en dessous, c'est ciao.
C'est mort.
Est-ce que les dragues, enfin, c'est des brouettes de queue, on ne sait pas. Est-ce que ça fait de l'engrais et du coup, ça auto-fertilise peut-être Westeros? Est-ce qu'ils brûlent leur caca?
Moi, je crois qu'ils brûlent leur caca.
Moi, j'aime bien l'hypothèse qu'ils brûlent leur caca parce qu'au moins, ça explique pourquoi il n'y en a pas partout.
Oui.
Parce que là, on a quand même beaucoup de dragons, notamment dans cet épisode. On va arriver à cet épisode.
On va y arriver.
Ok, c'est bon. Fin de l'intro. C'est le moment.
Moins de trois quarts d'heure.
Oui, bravo. Dites-nous bravo, merci. Fabrice. Bravo à nous.
C'est grâce à moi.
Un petit peu plus tight avec Fab qu'avec Tequila Tex, je vous le dis. Il y aura moins d'hommes poissons,
moins de questions
sur des mystères de dagues noyées.
J'ai pas toutes ces refs. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde la série.
Voilà. On est sur une personne moins nerd de l'univers, mais du coup, ça me donne aussi l'occasion de comprendre à quel point cette série est accessible pour les gens qui ne sont pas des gros nerds de cet univers.
Un peu con.
Et à quel point t'as, entre guillemets, tu as et vous avez besoin de contenu comme celui-ci. Pour, en fait, si c'est pour enrichir la façon dont vous kiffez la série, je trouve ça cool. Si c'est pour comprendre la série, genre, en fait, elle se suffit pas à elle-même, je trouve ça un peu bof. Donc, on va débriefer cet excellent épisode 7 de House of the Dragon, qui se passe donc assez immédiatement après le précédent. Je pense qu'on va dire une semaine ou deux, le temps d'organiser les funérailles et que tout le monde arrive. C'est les funérailles, malheureusement, de Lena Velaryon, décédée en couche par voie de Dracarys ultime, ce qui était une mort plutôt badass pour une meuf plutôt badass. Et c'est l'occasion...
Je voulais dire un truc avant de commencer, c'est qu'il y a un truc qui m'excite un peu dans cette série maintenant.
L'inceste.
C'est... Alors je sais... Je suis du Nord.
Vous pouvez clipper ce moment, vous avez le droit.
On n'est pas obligé de jouer sur tous les clichés.
C'était pas un truc sur le Nord, c'était juste une bonne vanne parce que je suis désolée. Scène là, on va en parler, la scène Rhaenyra Daemon.
Ça va partir.
J'ai vraiment envoyé à Fab un truc genre sensual, incestuous, sex. J'étais here for it. Vraiment extrêmement chaude.
Non, le truc, l'un des trucs qui m'excite un peu avant chaque épisode et au début de chaque épisode, c'est est-ce qu'il y a eu un saut dans le temps?
Oui, j'aime bien ne pas savoir.
Ça trop cool.
Là, j'ai vu sur internet 2-3 trucs et j'étais là. Je préfère pas savoir.
Ouais, je suis très d'accord. Il y a vraiment un vrai truc de. Ok, est-ce qu'on a avancé d'une demi-heure ou alors est-ce qu'on a avancé de 3 ans, quoi? On ne sait pas. Je trouve ça vraiment cool.
Il y a Remember Sammy qui dit: je trouve que ça marche mieux quand il n'y a qu'une semaine et pas 10 ans entre chaque épisode, je dois avouer. Moi, j'aime bien cette audace qu'ils ont eue avec des sauts temporels un petit peu vénères, mais. À voir sur la durée, comment ça va, à quel point ils vont devoir le tenir et est-ce qu'à un moment ça va, comme on s'est dit la fois dernière, ralentir ou pas.
Et surtout, je sais pas à quel point c'est déroutant. Par exemple, j'en parlais avec Jérôme Niel, je voyais que Jérôme, il était en train de...
Quelle personne de talent.
Voilà, qu'il était en train de screener, enfin de mettre en story le générique et je lui disais qu'est-ce que t'en penses et tout. Il m'a dit, oh, putain, j'étais vraiment choqué quand ils ont fait le saut dans le temps. Mais je crois que les gens qui juste suivent la série sans avoir écouté des...
truc de nerd,
ou
même lu un peu les médias avant, parce qu'en soi, ils l'ont pas caché, le saut dans le temps, ils l'ont même pas mal médiatisé,
ça
parce
doit...
que je pense qu'ils savaient le risque.
Ah oui.
Mais on peut pas compter sur 100% des gens le savent, quoi.
Ça doit faire chelou, quoi. Tu vois.
Il y a 10 épisodes dans cette saison, June, je vois que tu demandes sur le chat, c'est 10 épisodes comme la plupart des séries HBO. Game of Thrones, c'était 10 épisodes aussi, avant que ça réduise sur la fin. Et rappelons que traditionnellement, dans Game of Thrones, dans les premières saisons, c'était l'épisode 9 où il se passait une dingue majeure. C'est l'épisode 9 où Ned Stark est mort, c'est l'épisode 9 où il y a eu le Red Wedding. Donc voilà, après ils ont basculé à l'épisode 8 comme ça, en mode, crari, on le voit pas venir, comme quand on dit à 3 je tape et on tape à 2, tu vois. Mais du coup, gardons les yeux ouverts pour l'épisode 9, où revient la réalisatrice du fameux épisode de la scène de sexe avec Kristen Cole et de la scène de bordel avec Daemon, qui est une très bonne réalisatrice, Claire Kilner, je crois.
Ah, tu sais déjà que...
l'épisode 9.
D'accord.
Je l'ai entendu dans mes petits podcasts de nerd, voilà. Du coup, ces funérailles, c'est d'abord l'occasion pour tous ces personnages de se retrouver après 10 ans, puisque... le principe duquel on peut partir, c'est que Rhaenyra n'a pas vu Daemon depuis 10 ans, depuis qu'il a eu son mariage désastreux à Rhaenyra. En fait, lui, il s'est barré et il est allé voyager avec
Lena
et faire des enfants et aller à Pentos et tout ça. Il n'est pas du tout resté à King's Landing, il n'a pas de place à la cour, il n'a pas de rôle à la cour, il n'en veut pas en plus. Donc il est parti. Et à un moment dans l'épisode précédent, Leina dit on est des voyageurs, on se pose pas. Quand le mec de Pentos leur propose de rester, donc Rhaenyra et Daemon ne se sont pas.
C'est la vanne sur le Airbnb. Comme ça, pardon, c'est dans le récap rigolo si vous l'avez
Abonnez-vous
pas.
Abonnez-vous à mon Patreon.
C'est vraiment très très drôle.
Viserys n'a pas vu Daemon depuis 10 ans et Daemon.
Ils ont tous les One Piece.
Il y a des gens qui m'ont dit One Piece c'est pas fini. J'étais là, c'est ça la vanne. Voilà. Parce que j'ai fait une vanne sur ils ont eu le temps de lire tout One Piece.
Putain, c'est tellement
drôle. Et on peut pas lire tout One Piece parce que comme Game of Thrones, c'est pas fini. Je le sais, ok, je connais les mangas. That's a joke. Viserys non plus n'a pas vu son frère a priori depuis 10 ans. Alors ils ont peut-être échangé un peu par lettre, hein, ils sont tenus au courant. Dans l'épisode précédent, Lena annonce à Daemon que Rhaenyra a eu un troisième enfant et il dit est-ce qu'il a toujours une ressemblance très coïncidentale avec le chef de la garde de la ville. Donc il a
connaît
les potins aussi. Ouais. Et c'est la première fois pour tous ces personnages qui sont concentrés dans un aussi petit espace où ces bails, comme tu dis, vont être le sujet principal de l'épisode, cette question de la bâtardise qu'on nous fait macérer depuis l'épisode précédent. Donc il y a eu seulement qu'un épisode en vrai pour comprendre que c'est ça qui se passe, c'est un enjeu, il y a trois gamins, ils sont pas du bon daron, et c'est très grave, et apparemment leur couleur de cheveux suffit à tout le monde, et aussi le fait que Lenor n'est pas hétérosexuelle. Qu'est-ce que t'as pensé de cette arrivée à Driftmark avec tous ces persos qui sont là? Est-ce que t'as reconnu qui c'est qui donne le discours pendant les funérailles et qui fait des grosses références à la bâtardise et tout le monde qui se regarde en mode « on sait exactement de quoi il parle ».
Donc c'est le frère de Corlys.
Tout à fait.
Qu'on a vu avant ça à la bataille...
aux Stepstones.
Voilà.
Contre le Crab Feeder.
Avec Lenor jeune à l'époque.
Oui, voilà. Oui, oui. Et Daemon qui avait décidé de rien dire du tout, de casser la gueule d'un gars et d'aller couper le Crab Feeder
en deux. Parce qu'après tout... pourquoi pas la masculinité toxique, hein?
Ah bah c'est le sous-thème de cette série, le feu, le sang, les bâtards, l'inceste et la masculinité toxique. Les daddy issues, les parents issues, hein, vraiment. On va parler des darons dans cet épisode, mais ça en tient une sacrée couche.
Putain.
Ils sont vachement clairs de peau en plus d'être très bruns. Ouais, alors c'est toujours intéressant qu'ils aient rendu la famille Velaryon incarnée par des acteurs noirs et métis parce que il y avait forcément ce problème de parenté, mais en vrai tout le monde le sait dans le bouquin aussi que c'est pas les enfants de Lenor alors qu'il est blanc, donc let's go quoi. Moi j'ai pas de problème avec ça, j'adore ce choix. Salut Wesker, welcome. Quid de ces funérailles?
Écoute,
de cette entrée dans l'épisode,
moi je t'avoue que je vois direct le message, enfin le discours de donc du frangin de Corlys dont j'ai pas le prénom.
Il s'appelle Vaemond, je crois. J'avais noté, mais honnêtement, bon.
Et en fait, sur le moment, je me dis, ok, le mec, il est vraiment ultra vénère et il fait des grosses allusions sur le sang impur, etc.
Oui.
Et je ne comprends pas d'ailleurs.
Le sang de notre famille est très épais. Il est très important pour nous. Quiconque le souille, c'est bif bof. Et Rhaenyra, elle est là avec Lenor à côté en mode.
J'étais là, mais mec, c'est pas ton souci, en fait. Pourquoi tu t'en mêles? Donc, c'est l'une des questions que je t'ai posées avant d'arriver.
Yes.
Où je comprenais pas, pourquoi il s'amusait à appuyer sur ce truc-là. C'est pas son bail, c'est pas son histoire. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Enfin, tu vois, il a rien d'autre à foutre. Je comprends pas. Voilà, tout simplement sur le moment.
Alors, du coup, l'explication à ça, c'est que, en gros, et ça va être plus clair avec la scène où il y a Corlys et Rhaenys, donc Corlys Velaryon et Rhaenys, la reine Targaryen qui n'a jamais été reine, les parents de Lena qui est décédée, parlent entre eux au coin du feu. En gros, il y a une idée de Rhaenyra, elle a déshonoré la famille Velaryon en faisant des bâtards à Lenor, qui donc ne sont pas de sang Velaryon, et en les présentant comme les héritiers, et du coup en privant la famille Velaryon de son réel droit à accéder au trône. Le fait que ça soit connu, et qu'en plus ça soit attaché à l'homosexualité de Lenor, c'est une honte aussi pour la famille, que la reine ait fait des bâtards à leur fils et que tout le monde le sache. Ça peut aussi amener une idée d'impuissance sur Lenor, et le fait que Rhaenyra soit aussi détendue avec ses bâtards alors que tout le monde est au courant, c'est un vrai problème. Alicent, dans l'épisode précédent, elle dit « Avoir un enfant comme ça, c'est une erreur. En avoir trois, c'est une insulte. » Elle n'est pas 100% dans son tort, dans le sens où c'est une des règles les plus importantes de la politique qu'elle enfreint avec ses bâtards. Mais en même temps, elle n'a pas non plus 100% de choix. Et elle parle d'ailleurs dans cet épisode avec Lenor du fait qu'ils ont essayé de faire des enfants légitimes.
C'est ça. C'est qu'en fait, c'était quoi son alternative à Rhaenyra, finalement?
Bah, c'était de pas faire d'enfants, ce qui arrive. Mais c'est dangereux pour elle. Ou peut-être d'essayer de faire des enfants avec quelqu'un qui lui ressemble un peu plus ou qui ressemble un peu plus à Lenor. En vrai, si elle avait eu Daemon en side...
avec son tonton.
Voilà. Si elle l'avait eu en side piece depuis le mariage, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Mais lui, il était occupé à aller faire des vrais enfants Velaryon pour le coup. How the tables have turned. Du coup, pour la famille Velaryon, c'est quand même un affront ce qui se passe. Et il y a deux factions. Il y a la faction qui est représentée par Rhaenys et le frère de Corlys qui pense que c'est grave que des enfants qui sont pas de leur sang soient présentés comme de leur sang. Et il y a l'avis de Corliss qui dit cette fameuse punchline qui apparemment était dans toutes les bandes annonces de la série, l'histoire ne se souvient pas du sang, l'histoire se souvient du nom, en disant en gros je m'en fous si c'est mes enfants ou pas, l'histoire dit que c'est des Vélaryons, donc c'est des Vélaryons, lui il s'est battu pour qu'il garde son nom, c'était ça sa négo avec Viserys, c'était est-ce qu'ils seront des Vélaryons les enfants de Rhaenyra et de Laenor, et Viserys a dit oui, sauf celui qui accédera au trône. Donc c'est pour ça qu'il est aussi choqué, le frère de Corliss, et en enterrant du coup Lena, il y a aussi cette possibilité très réelle que la famille s'éteigne, tu vois, il y a deux filles qui restent, du coup elles vont pas garder le nom Vélaryon, et Laenor a priori va pas trop se reproduire, on va pas se mentir, lui le frère on sait pas s'il a des enfants ou pas, je pense qu'il a des enfants mais enfin c'est quand même précaire quoi, comme lignée, tu vois, ça fait pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'il est vénère, et il met le sujet sur la table devant tout le monde, mais je pense qu'il serait arrivé anyway parce que c'est le sujet qui divise cette famille, pour l'instant c'est les bâtards de Rhaenyra. Et on a Daemon qui se tape une petite barre de rire à l'enterrement de sa propre femme. Qu'est-ce que t'as lu dans la nonchalance de Daemon ? Est-ce que tu t'es dit, comment tu lis ce personnage maintenant qu'on l'a un peu plus vu, qu'on l'a vu en père semi-impliqué, plus impliqué avec sa fille qui a un dragon qu'avec celle qui en a pas, clairement, mais qui est quand même un perso qui en 10 ans s'est calmé, et là qui arrive et qui est de nouveau un peu... Il aime bien le chaos quand même, quoi. Il aime bien quand ça s'embrouille.
En fait, je t'avoue que pour moi, il est... J'ai un peu l'impression qu'il a lâché prise, tu vois, parce que j'ai pas l'impression qu'il était vraiment en mode, ok, comme sa meuf, alors c'est Lena, sa meuf.
Lena, Lena.
J'ai pas l'impression qu'il était vraiment dans un mood de, ok, en fait, on lui ouvre le ventre et peu importe, on va sauver l'enfant.
Non, je pense pas qu'il l'aurait fait.
C'est elle qui finit par aller se faire cramer la tronche par.
Et je pense qu'il respecte ça.
Exactement. Et pour moi, il est vraiment dans une forme de lâcher prise. C'est l'un des trucs qui me choque un peu, d'ailleurs, c'est que on voit pas vraiment qu'il a vieilli comparé à
Viserys. Oui, une des questions que j'avais à l'épisode précédent, c'était pourquoi Matt Smith, il a toujours 30 ans.
Exactement.
Matt Smith, donc l'acteur qui joue Daemon. Ça fait partie de... Mais Kristen Cole a pas vachement vieilli non plus, tu vois.
Non, mais enfin, il a vachement... Enfin, par rapport à Viserys, il est vraiment...
Après, il a pas fait deux enfants.
Oui.
Et voyagé dans le monde entier, et perdu sa femme et tout ça.
J'avoue. Mais ouais, tu vois.
Il est resté à bitcher avec Alicent, là.
Le truc, c'est que comme il a pas vraiment vie physiquement, en fait, on se rend pas compte que du temps a passé. Mais pour moi, c'est juste potentiellement un mec aussi, tu vois. Tu le vois là, il ferme sa gueule pendant tout le long. Il regarde, il observe. Mmh. Il est vraiment dans
il
un mood.
Beaucoup, il s'adosse. Et l'acteur Matt Smith a dit, he's a leaner. C'est-à-dire, genre, il est un mec qui, voilà, qui s'appuie. Et il dit, c'est comme ça que j'imagine dans ma tête quand j'ai lu le bouquin de Daemon. C'est un mec qui s'appuie contre le mur et qui regarde ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de scènes où l'acteur, il est juste appuyé contre un mur. Et depuis le début, il dit très peu de choses, Daemon. Bah, c'est ça qui est intéressant aussi.
Il était plutôt en mode drama total.
Drama avant,
dans la première moitié.
Mais déjà pas très bavard, tu vois.
Oui.
Il comptait ses mots et là il en dit toujours pas beaucoup. Il est dans l'observation, il est un peu moins genre flamboyant. Après c'est aussi l'enterrement de sa femme, je pense que même lui a une petite idée de faut pas avoir l'air trop content, et je pense qu'il est pas spécialement content.
Non.
Je pense pas qu'il est en mode ah trop cool, je vais pouvoir serrer la petite ou je vais pouvoir, enfin je suis enfin débarrassé quoi.
Bah il est pas du tout dans ce mood là quand il se retrouve avec Rhaenyra. Hein.
Non.
En plus.
Alors qu'elle, elle est là.
Elle est les let's go. Tonton, c'est parti.
On s'est pas vu depuis 10 ans, ça part sur la plage. On en parlera coquillage et crustacé.
Oui.
Alors je vois qu'il y en a dans le chat qui pense, qui interprète ce petit ricanement de Daemon comme il est en nervous breakdown, tu vois, comme ça peut arriver aux enterrements, surtout de quelqu'un de très proche qui en plus remet en cause toute ta vie, parce que finalement il est pas parti pour être père célibataire de ses gamines très longtemps, et qui s'effondre et qui se met à rire de façon un peu hystérique. Moi je l'ai pas lu comme ça. Je l'ai lu comme en fait il apprécie le bon drama et le fait. Alors un mix entre il apprécie le bon drama et le fait que le frère de Corliss décide en frontal de dire le thème de cet enterrement c'est la bâtardise des gamines de la blonde, je pense que même lui il est là oh. C'est audacieux, même moi je l'aurais pas tenté mais let's go. Et je pense qu'il y a un peu un truc de désabusé de même là ils font de la politique, tu vois, genre toute cette cette zumba de jungle de cours de politique de couteau dans le dos que j'ai quitté il y a 10 ans. Et ben même là ils peuvent pas, genre au discours des funérailles de sa nièce au gars, il peut pas s'empêcher d'être là en mode et on doit parler des bâtards de la princesse et tout. Donc voilà, je l'ai interprété comme ça, mais peut-être que
il y a aussi
de l'épuisement nerveux là-dedans quoi.
Il a un peu comme dit je suis désolé, guépard
solide. Daemon, il est parti loin de King's Landing car il a blessé son frère avec ses agissements, mais il a tout perdu avec la mort de Lena, alors il est conscient qu'il sera jamais heureux sans décevoir son frère. Je pense que Damon...
Il en a rien à foutre hein, de décevoir son frère, à mon avis.
Bah, quand même, il lui a dit, pourquoi tu me gardes pas... Enfin, dans l'épisode où, ouais. où Viserys le bannit pour la première fois, donc il y a 15 ans maintenant, il lui a dit, tu m'as jamais proposé d'être ta main, tu m'as jamais proposé de travailler avec toi, moi je veux juste être ton bras droit et tout. Fun fact, Viserys en aurait bien besoin maintenant. Parce qu'il a perdu un bras, voilà, vous l'avez.
Allez!
Donc, je sais pas s'il y a... Par contre, décevoir son frère... Je pense pas que c'est très important pour lui parce que je pense qu'il respecte pas assez son frère pour avoir peur de le décevoir.
Bah dans la scène après, Viserys fait un pas vers lui et il l'envoie complètement boulax.
Oui, enfin il l'envoie boulax, mais pour moi il l'envoie pas tellement. En fait, il respecte pas le fait que Viserys respecte pas le trône et le fait d'être Targaryen.
Ah oui.
Tu vois, il est là. En fait, Viserys, t'es pas dans la secte chelou des Targ, tu t'en fous, t'as pas de dragon, t'es marié à une go qui est pas une Targaryen et tu respectes pas nos coutumes, genre l'inceste et les mariages traditionnels qu'on va discuter. Mais il l'aime, mais alors je pense pas qu'il est en mode je serai plus jamais heureux, je vais décevoir mon frère, genre ça reste Daemon, hein. C'est quand même un connard, hein, n'oublions pas, il tue un gars dans cet épisode, hein, gratos, pour faire avancer sa vie, il y a quand même un meurtre direct commis par Daemon, c'est le seul gars qui tue quelqu'un dans cet épisode, donc on va, et il a tué sa femme, hein, rappelons-le, il y a 3 épisodes de sang-froid, pour le simple fait qu'elle lui plaisait pas, et qu'elle l'empêchait d'épouser qui il voulait, donc on va se calmer sur l'empathie,
non.
Il a, c'est quand même un petit peu une personne,
c'est comme un sacré bâtard.
On a un petit bout de rituel que j'aime bien voir les différents rituels du monde de Westeros et notamment la religion, enfin les différentes religions et croyances qu'on connaît pas forcément énormément. Du coup, j'ai bien aimé voir cet enterrement marin avec ce sarcophage, enfin ce cercueil un peu sarcophage. Et alors, on en parlera probablement la semaine prochaine avec Tequila Tex qui vous fera un point homme poisson du coup en décalé. Mais l'officiant, les sachants auront remarqué. Que le frère de Corlys qui officie l'enterrement mentionne le Merlin King. Il dit que la mer est la demeure du Merlin King. Et historiquement, selon la légende, le Merlin King est un roi sous-marin qui aurait offert au Velaryon ce fameux trône de bois flotté sur lequel trône Corlys. Donc, on est dans du homme-poisson à la première phrase de l'épisode. J'ai fait pause, j'ai écrit à Tenki, je lui ai dit dans les 3 premières secondes, il y a un point homme-poisson, il parle du Merlin King, c'est incroyable. Donc bon, voilà,
vous après, l'avez chez vous. Il dit... grosso modo, frère, tu vas t'aller te balader, aller violer sur les, te balader dans les eaux, etc., etc. Moi, franchement, je me suis dit, ok, le sarcophage, il va aller se balader. Il est tombé au fond direct,
non,
c'était là. Bon, bah,
c'est comme quand tu montes au ciel, on lance pas les cercueils de canon, tu vois. Ça ferait, parce qu'après, ça fait désordre. En termes de zone d'atterrissage.
Moi, j'étais déçu. Tu vois, vraiment, je me suis dit, ok, si ça tombe,
est-ce
ils vont...
Est-ce que t'imaginais des petites torpilles, t'es comme non, dans mais... les James Bond où les voitures, ça devient des sous-marins, genre, il y a des torpilles
en fait...
qui sortent et qui sont...
Dans... mais dans ma tête, tu vois, ça avait les... il allait juste...
Oui,
enfin,
il allait
tu vois, il allait pas laisser
et
le truc.
Et peut-être dans le truc où ils mettent le feu et tout.
Oui,
machin,
c'est ça.
Tu vois, bah non, non. Ils...
Non, non, pas du tout. C'est...
Leur terre, c'est la mer, donc ils enterrent, effectivement. J'avoue. Alors, j'espère qu'ils les jettent pas tous du même endroit, parce que ça s'empile vite.
Bah, c'est ça, je
moment.
Me suis dit, en plus, il y a qu'un corps.
Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de fonds? Mais après, c'est un corps de la princesse locale, tu vois. C'est peut-être pas tous les péons qui jettent depuis le château. J'avoue. Je pense que les péons, ils ont leur plage qui déborde un peu, tu vois, qui sont là, on a plus trop d'eau. Le fond, il remonte. Ok. Donc on a ces funérailles, ensuite on passe au fameux cocktail post-funérailles, le meilleur moment de tout enterrement, celui où on peut picoler avec ses cousins et ses cousines qu'on n'a jamais vus.
Alors, la scène d'intro, je tiens à dire, c'est que t'as un plan magnifique sur le château et t'as
avec...
les dragons qui arrivent.
On a 5 dragons,
c'est
tous
ça, c'est
ensemble.
Ouf.
C'est la... Et même dans le livre, ils disent, le septon qui raconte cette scène dit « Il y avait tant de dragons réunis au même endroit pour la première fois qu'on aurait dit qu'on était de retour à l'ancienne Valyria avant le doom, le péril. » Donc oui, c'est vraiment beau, quoi.
Et alors
et le petit saupoudrage régulier de dragons qui est là. Vous vous souvenez qu'on s'appelle House of the Dragon et qu'on a toute la thune ? Chefs,
tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a évoqué tout de suite un épisode de Succession. Où en fait, t'aurais toutes les familles qui arrivent.
Succession à faire.
Oui, il y aurait toutes les familles qui arrivent avec leurs hélicos respectifs, tu vois. Vraiment. Je me suis dit, waouh. Parce que pour moi, cet épisode, c'est franchement le meilleur épisode de Succession qui ait jamais eu dans Succession.
Oui.
C'est vraiment complètement dingue.
À partir du moment où tout le monde arrive en hélico, c'est sympa, quoi.
Voilà.
Bonsoir, souvenir de Maëlle. Bonsoir. Pour rappel, c'est un souvenir de Maëlle qu'on doit cet incroyable DA de ma chaîne Twitch et les petites émotes dont ma préférée la girole bien sûr. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez voir ce qu'il fait.
Le chat est beaucoup plus sympa qu'en vrai, je tiens à le dire.
C'est vrai qu'elle a Momo a failli niaquer Fabrice. Mais là vous la voyez pas mais elle dort juste derrière en boule, elle est trop mignonne. Le point succession, point succession, point succession. Oui, du coup, je présente souvent House of the Dragon en disant que c'est Succession mixée avec The Crown, mixée avec Game of Thrones. Succession qui est donc une série HBO aussi sur une famille très riche qui se déchire pour la succession d'un empire médiatico-financier. Et un père qui, un peu à l'image de Viserys, mais il va mieux, il est plus en forme, refuse de mourir. Donc ça fait 3 saisons que ses enfants, tous extrêmement fucked up, se battent pour savoir qui pourra hériter non seulement de l'entreprise familiale, mais aussi surtout de l'amour de leur papa toxique.
C'est surtout ça le truc. C'est plutôt, c'est plus l'amour que le papa, que, voilà. Que l'entreprise, pardon.
Alors que là, en soi, on n'a pas un papa si toxique avec Viserys. Non. C'est dur de dire c'est la faute de telle personne s'ils sont fucked up, mais ils sont quand même bien tous éclatés. Et dans Still Watching, le podcast de Vanity Fair sur House of the Dragon, ils ont comparé beaucoup cet épisode à ceux de Succession, parce que ceux de Succession saison 2 se passent tous dans un endroit différent. Et c'est tous un peu des bottle épisodes, donc des épisodes qui se passent dans une seule localisation, et c'est à des endroits très identifiés, et du coup on se souvient, ah oui c'est l'épisode à Turnhaven, c'est l'épisode où ils sont en Europe, etc. Et du coup là, le fait de réunir tous ces personnages à Driftmark et d'avoir, en plus ils arrivent tous voilà, dans leur petit jet privé personnel, qui fait aussi bombe nucléaire rappelons-le, mais commandable que par une personne, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh bien, c'est très Succession, et il y a beaucoup de jeux de regard dans ce cocktail, je voyais quelqu'un le disait dans le chat avec tous les emojis yeux, et effectivement j'ai pas pu regarder cet épisode avec mon téléphone à la main ou quoi, enfin je suis toujours concentrée devant House of the Dragon, mais des fois j'avoue, genre je commente à Fabrice, donc je prends mon téléphone et je lui envoie des messages en caption.
C'est très drôle.
J'ai... et là je remettais en arrière, j'étais là, attends, Kristen il a regardé quelqu'un, il faut que je sache qu'il a regardé, parce que tellement de choses se passent par les regards, c'est le bordel. Qu'est-ce que t'as pensé de ce cocktail? Est-ce qu'il y a des scènes qui te reviennent en tête? Alors, il se passe pas mal de choses, il y a les gamins qui interagissent un petit peu, il y a Corlys qui va dire au petit de Rhaenyra, un jour tu vas hériter de mon château, et il dit bah j'en veux pas parce que tout le monde sera mort. Il y a Rhaenys qui vient empêcher le grand Rhaenyra de parler aux petites filles de Lena. Il y a Aegon et Aemond
qui boit des shots sur shots.
Alors il y a Aegon qui boit shot sur shot et qui parle avec Aemond du fait qu'il a pas envie d'épouser sa sœur. Guess what? It's happening now. T'as la gamine qui parle à une araignée. Il se passe plein de choses et après Viserys et Daemon décident d'interagir. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont parlé plus que d'autres, des thèmes que t'as kiffé?
Moi, plutôt le grand-père qui vient dire à son petit-fils, mon gars, tu vas avoir
un jour tout ce qui est dans la lumière sera à toi.
Sera à toi. Et lui, il dit mais moi je veux pas avoir. Et je trouve que ça en dit tellement long sur le poids de l'héritage. Et en gros, ce que ces gens s'infligent depuis des générations, de génération en génération, au nom de l'histoire, au nom de l'héritage, etc. Et je trouve aussi que c'est un thème récurrent dans Succession, en fait. C'est à quel point, au nom d'un héritage et au nom de se transmettre les choses, tu finis par te pourrir la vie, au nom de la famille aussi, parce qu'il y a aussi ça. Et je trouve que la candeur de ce môme qui dit en fait moi je veux pas ça parce que ça veut dire que le jour où vous avez ça, ça veut dire que tout le monde est mort.
Oui, je trouve que c'est pas régner sur des cendres quoi.
C'est vraiment c'est la candeur d'un enfant quoi, tu vois, à qui tu viens dire non mais t'inquiète pas, tu vas avoir tout ça, et lui il est là mais moi c'est pas ma vie. Laissez-moi tranquille quoi.
Et tu sens qu'il a autant Aegon dans l'épisode précédent, il est là ça m'intéresse pas d'être roi, tu vois, mais il a l'air de juste s'en battre la race. Autant lui il a compris que si j'ai ça, c'est que tous les gens que j'aime sont morts, parce que si j'en hérite, c'est bien que vous êtes morts, quoi. Et alors c'est marrant parce que les fans, notamment anglophones, ont fait un rapprochement avec Jon Snow, puisqu'il dit exactement la même chose. Ah. Attendez. Oui, on va vous parler de Aegon et sa sœur, j'arrive. On l'a fait très vite, mais on va faire point par point, du coup. Quand Jon Snow apprend qu'il est l'héritier du trône de fer, il a un truc qui est devenu un peu un mème dans la communauté où il dit « I don't want it », mais avec une voix un peu genre débile, comme il a parfois. Jon Snow, il a « Oh, mais j'ai pas envie ». Et après, il dit « She's my queen », parce qu'il veut pas prendre le trône à sa reine Daenerys. Et c'est ce truc où Jon Snow et Daenerys, ils se sont croisés genre 10 minutes et ils sont devenus in love, tu vois, et t'es là « Bon, on s'en fout ». Et du coup, là, il dit exactement pareil, le gamin, avec le même ton. Il dit « I don't want it ». Donc moi, j'étais là « Ah, c'est marrant, la ref ». Et en fait, après, il dit la meilleure raison que celle de Jon Snow, qui est « Parce que tout le monde est mort ». Et je trouve que c'est finalement le thème de la série, c'est vrai, c'est pas tant le pouvoir corrompt, qui était peut-être l'un des thèmes de Game of Thrones, mais c'est le pouvoir corrompt de parents à enfants, quoi. C'est vraiment ces enfants-là, tu vois, ces derniers trucs, tu les vois vraiment à des virages où ils sont potentiellement sauvables, tu vois. Ils pourraient encore être emmenés dans, essayer de traîner ensemble, essayer de partager votre deuil, essayer de vous réconforter. Et en fait, les adultes les empêchent, quoi. Les adultes les font rentrer dans ce jeu de pouvoir, dans un jour, tu seras seigneur d'ici, non, mais parle pas avec lui, c'est un bâtard, en fait, et on veut pas parler à cette famille. Et en fait, c'est des gamins qui pourraient être potes, tu vois, et passer du temps ensemble.
Mais c'est ce qui se passe dans les familles d'une manière générale.
Oui.
T'as toujours un cousin que t'aimes pas, ou tu vois un cousin éloigné. Enfin, c'est exactement ce qui se passe. Je trouve que c'est plutôt bien foutu à une plus grande échelle, certes, mais c'est plutôt bien foutu. Et puis, pareil, Egon, à qui le grand-père, il dit à sa daronne, il faut que tu le prépares pour qu'il devienne roi. Lui, il est là.
Oui, bah, Otto
Hightower.
Juste envie
de me branler. Laisse-moi tranquille.
Hightower, vraiment. Ah oui, non, Viserys, tu veux dire.
Non, c'est Otto qui dit.
Oui.
C'est Otto qui dit à sa mère, enfin qui dit à sa fille.
Alicent.
Ouais, Alicent, il va falloir que tu prépares à devenir à devenir roi. Et l'autre, il en a strictement rien à foutre.
Non, il a 14 ans, il veut vraiment soulever des servantes et boire des shots. Ce qu'il fait, au moins boire des shots dans cet épisode. Soulever des servantes, a priori non, et il se fait plutôt bolos par papy en plus qu'il retrouve Reb.
Et effectivement, moi j'étais vraiment scotché de voir que Otto. Revenu au Otto Hightower, je dis mais vraiment Viserys.
Oui, alors on va en parler parce que c'est une des questions que j'ai le plus reçues, je pense, pour cet épisode, c'est d'où Otto est de retour, il n'y a personne d'autre, qu'est-ce qui se passe? Alors, guess what? Viserys n'a pas de colonne vertébrale, on le sait quand même, ça fait 7 épisodes. Dans le bouquin, on ne sait pas beaucoup plus pourquoi Otto revient, mais effectivement, une fois que Lionel Strong est tragiquement décédé dans un accident dont on ne connaît pas la cause, il refait venir Otto Hightower. Alors ça s'explique en partie par le fait que être main du roi, c'est un honneur quand même insigne. Viserys, donc il faut que ce soit une maison noble que tu veux vraiment féliciter, donc tu prends pas n'importe qui parce que ça peut faire des problèmes diplomatiques si tu prends une famille un peu random, les autres vont dire pourquoi pas nous, et voilà, c'est compliqué, donc autant prendre une famille qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà noble, au moins personne va questionner la légitimité de Otto à ce job là en soi. Il a pas viré Otto parce qu'il a fait du mauvais boulot, il a viré Otto parce que dans le livre, c'est parce qu'il insistait trop pour qu'il passe l'héritage à Aegon et pas à Rhaenyra. Dans la série, c'est parce qu'il a insinué que les enfants de Rhaenyra étaient des bâtards. Mais bon, guess what, maintenant tout le monde le fait, donc on va peut-être pas le virer
pour
ça.
C'est aussi parce qu'il poussait, tu vois, à un moment donné, il a poussé aussi énormément, tu sais, notamment dans le fameux épisode sur la chasse, où il vient...
Oui, il pousse pour que ce soit Aegon l'héritier.
Voilà.
Oui, oui, c'est ça. Il pousse pour que l'héritage passe à Aegon, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais chef du royaume, tu vois. Enfin, il a pas donné les pires conseils à Viserys en termes de main du roi. Et Viserys n'a aucune forme de courage politique d'aucune sorte, donc je pense que... Est-ce que si sa femme, qu'on a vu être odieuse avec lui à l'épisode précédent, le tient par les couilles pendant une semaine et délicatement, ou moins délicatement, le fait amener à refaire venir mon daron, je pense qu'il le fait, en fait, c'est Viserys. Et aussi, il est en fin de vie, il est en fin de règne, et du coup, peut-être qu'il se dit, on va prendre quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et avec qui j'ai déjà bossé, car comme on va le voir dans cet épisode, il perd un peu la boule, papy, aussi. Donc c'est peut-être pas la pire, en fait, c'est pas complètement inimaginable. J'ai vu que ça a surpris beaucoup de gens, mais alors déjà, il n'y a pas 1000 candidats possibles pour le poste de main du roi, c'est comme Premier ministre, quoi. Il n'y a pas 12 000 personnes qui sont Premier ministrables, et encore, on est dans un univers beaucoup plus petit que la France de 2022. Et bah, Viserys n'étant pas une personne d'un grand courage politique, oui, il est revenu sur le plan A, en fait, parce que le plan B est mort, c'est pas hyper surprenant. Alors je dis qu'il perd la boule, Camille, parce que dans cet épisode, Viserys appelle Alicent du nom de sa première femme, Emma, qui est morte en couche dans l'épisode 1.
Je t'avoue, j'avais pas capté, il me l'a sorti, j'ai fait « putain, j'ai
ouais,
pas vu ».
Ouais, c'est rapide, mais au moment où il quitte justement ce cocktail, juste après que le soleil soit passé derrière le château dans une nuit hollywoodienne et un filtre bleu
horrible,
extrêmement moche, Miguel Sapochnik et la lumière, on pourrait en faire un mémoire entier, c'est aussi lui qui avait réalisé parmi les épisodes les plus sombres de Game of Thrones en termes purement d'image. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'ils ont des télés mieux réglés que nous chez HBO, mais clairement c'est illisible. Bref, Viserys, en partant du cocktail, quand il est fatigué, après avoir parlé à Daemon, il dit « I'm going to bed Emma » à Alicent devant tout le monde. Et le chef des gardes, donc le chauve barbu là qui a une bonne dégaine d'écossais, lui dit « Est-ce que vous voulez que j'envoie Queen Alicent s'occuper de vous ?» Et là il fait genre « Ah merde !» Et Alicent l'a vu, Kristen Cole l'a vu, tout le monde l'a vu. Donc alors, est-ce que c'est... un moment d'émotion, parce qu'il y a plein d'émotions qui se passent, il revoit des gens qu'il a pas vu depuis longtemps, il enterre une meuf qui est morte en couche quasiment de la même façon que sa première femme, ou est-ce que c'est un peu le dommage physique peut devenir neurologique à son âge? On ne sait pas, on verra. Mais c'est pour ça que je fais des vannes sur papy, il perd un peu la boule, c'est, oui, c'est un peu compliqué, quoi. Les petits vieux qui perdent la boule, c'est ma famille, émotion. Oh non, sorry. Effectivement, je vois qu'il y en a qui suivent. Adel Waddle rappelle que c'est un excellent clin d'œil à Robert Baratheon qui a appelé Cersei Lyanna, qui était le nom de la sœur de Ned Stark qu'il devait épouser. Ça n'a pas amélioré ses relations avec Lyanna Stark. Ok. On a les gamins Targaryens à ce cocktail et on a, effectivement, Aegon est promis à sa sœur, Elena. Donc Elena, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais dit, c'est marrant de faire attention à ce qu'elle dit. Et quand, je peux vous le dire maintenant, du coup, quand Alicent avait dit à Aemond, tu auras un jour ton dragon, je le sais, Elena avait dit, il faudra qu'il ferme un œil. Et on voit dans cet épisode que Aemond a un dragon, mais il a perdu un œil. Donc faites attention à ce qu'elle raconte. Dans cet épisode, elle parle en jouant avec son araignée de Tis... de personnes, de dragons qui tissent des fils de vert et de noir, et de dragons de chair qui tissent des dragons de fils. Et du coup, elle fait référence. Donc, les verts et les noirs, c'est les deux factions ennemies. Les verts, c'est la faction Alicent, comme on l'a appris, la flamme verte de Hightower, qui veut dire qu'ils partent en guerre, sa robe verte au mariage, tout ça. Les blacks, c'est la couleur des Targaryens, donc c'est la faction qui est Team Rhaenyra. Et du coup, c'est une référence à des dragons, des humains qui tissent le destin de deux factions ennemies. Mais voilà, faites attention à ce qu'elle raconte. C'est probablement une dreamer. On en reparlera dans les questions. Mais donc, c'est cette gamine-là qui, Aegon, est en train de discuter avec Aemond en disant, en gros, ça me fait chier de devoir l'épouser. Elle est bizarre avec ses insectes et tout. Et ça fait, depuis l'épisode précédent, que Aegon, il jette des petits regards à toute femelle qui passe en âge d'être soulevable environ, parce que les hormones, il a 14 ans et c'est un fils, c'est littéralement le fils du roi. Donc, je pense qu'il peut soulever un peu qui il veut. Est-ce que t'as pigé déjà qu'on était sur un bail de ils sont promis l'un à l'autre ?
Pas du tout, j'avais pas capté.
Ok, t'as pas. Ok.
Parce que pour moi, c'est ce que
un truc hypothétique.
Mais c'est ce que Otto propose à Viserys à l'époque. C'est-à-dire, t'as qu'à marier Aegon avec sa sœur et sa sœur, elle est littéralement, c'est encore un bébé. Et tu sais, t'as
à ce moment-là, Aegon a 2 ans,
Ouais, c'est
Viserys,
ça.
C'est là, oula. Et aussi, ce qui a surpris les gens, c'est que Alicent avait l'air très choquée de l'inceste entre Rhaenyra et...
Ah non, il propose de...
Non, c'est Otto qui propose de marier Rhaenyra.
Rhaenyra
et Aegon. Donc, ils sont demi-frères et sœurs.
Ouais.
Mais surtout, Aegon a 2 ans à ce moment-là. C'est plus la différence d'âge qui... Encore une fois, l'inceste, c'est pas hyper choquant pour les Targaryens. Donc, c'est plus la différence d'âge et le fait que, du coup, ça stabilise pas le royaume avant très longtemps. Et le fait que Viserys, il avait pas trop envie de forcer Rhaenyra à choisir un époux, encore moins un bébé. Donc, les Targaryens sont toujours dans l'inceste vie, plus ou moins,
c'est vrai
avec dérogation.
Quelqu'un qui dit que Viserys est plutôt au contre, et également Alicent.
Alors,
pourquoi ils ont changé d'avis ?
En vrai, elle est pas tant contre l'inceste en soi. Elle l'est probablement de par ses convictions religieuses, mais ce qui l'a gênée dans le bail Daemon Rhaenyra, c'était que Rhaenyra devait être vierge et rester vierge. C'était qu'elle outrepassait, c'était plutôt qu'elle perdait sa virginité, qui était important, surtout en tant que future reine du royaume. Et on voit bien qu'effectivement, faire des bâtards et prendre des risques quand on est reine ou future reine, ça fout la merde très vite. L'inceste l'a gênée, mais pas tant que la fornication, on va dire, plus le risque qu'elle prenait, plus une potentielle jalousie, car rappelons que la seule vie sexuelle que Alicent connaisse, c'est avec Viserys, et que ça a jamais eu l'air d'être dingo, et qu'à mon avis, c'est pas mieux. Maintenant, c'est pas amélioré avec la détérioration physique de l'homme. Je pense que ce choix d'accepter cette union, c'est renforcer leur emprise sur le trône. S'ils respectent les coutumes des Targaryens, s'ils marient ces deux qui ont un dragon, chacun, déjà, du coup, ça renforce la claim de Alicent et de ses descendants sur le trône de fer dans la tradition Targaryen, comme Viserys, etc. Et ça empêche qu'il soit marié à d'autres gens aussi, ce qui pourrait affaiblir son claim si, par exemple, comme Rhaenyra le proposait à l'épisode précédent, sa fille se retrouvait mariée à un des enfants de Rhaenyra. Ce qu'elle refuse, car déjà, elle a aucune envie de rentrer dans la team Rhaenyra et de faire la paix. Mais aussi parce que c'est des bâtards, en fait, les enfants de Rhaenyra, et que du coup, c'est assez insultant de proposer de marier sa fille ultra noble, qui est une Targaryen 50% pur jus, à un bâtard qui est lui aussi 50% Targaryen, parce que sa mère, c'est Rhaenyra, mais qui n'est pas légitime, et c'est très grave de pas être légitime quand t'es Alicent. Mais du coup, pour l'instant, le bail, c'est que Aegon est censé, à terme, se marier avec sa sœur Elena, que c'est Alicent qui est ok avec ça, et que lui, ça le saoule, et que Aemond, on le voit, est déjà dans une forme de traditionnalisme Targaryen, plutôt un petit enfant de droite, on peut le dire. Un peu ces petits enfants passionnés de Napoléon, t'es là... Est-ce un intérêt historique ou le fait que tu es déjà un enfant de droite ?
Les enfants sont de droite, hein.
C'est vrai que les enfants sont
d'une manière générale, les enfants
très attachés à une forme de propriété privée.
Voilà. Non, pour moi, les enfants sont de droite. Enfin, c'est les êtres les plus conservateurs qui existent, hein.
Tout à fait.
Ils détestent le changement.
Oui. Donc voilà pour le point, les blondinés, on les reverra assez vite, bien sûr, puisqu'ils vont être très très là, surtout Aemond, que j'adore, je suis trop contente de le voir. On a un petit moment, Larry Strong qui regarde intensément Alicent. Et Kristen Cole, il est chelou, hein. Et Kristen Cole qui regarde intensément Larry, qui regarde intensément Alicent, qui est toujours en mode pitbull chien de garde. J'ai juste pour noter, j'ai trouvé ça cool qui justifie la présence de Larry, parce que finalement, sinon, il a un peu rien à faire là. En rappelant que comme son frère et son père sont morts, c'est dommage, il est maintenant Lord de Arrenhall, ce qui est quand même un château majeur dans cet univers-là, une seigneurie majeure. Donc en fait, il a, rappelons-le, même si c'était pas forcément, alors dans l'épisode précédent on se disait que c'est pas le pouvoir son but principal, le pouvoir traditionnel, il a pas fait ça pour devenir lord de Arrenhall, je pense il l'a fait parce qu'il est zinzin et qu'il aime le chaos et que ça lui donne du pouvoir, mais plutôt à la cour, mais ça justifie sa présence là. C'est maintenant, en plus de tout ça, c'est un bonus non négligeable, c'est un lord très important en fait dans ce monde là
pour moi c'était plutôt pour se foutre Alicent dans la poche, mais
oui voilà, c'était pas son attrait premier. Oui. C'était pas je vais éliminer les gens qui me séparent d'être lord de ma famille, ça je pense qu'il s'en fout un peu. Ouais. Il est clairement en train de créer sa propre légende, il a son propre emblème, il a sa propre équipe et tout, donc on va avoir, moi je sais. Après, des fois, on croit savoir des choses et House of the Dragon dit non, on va faire autre chose. Mais normalement, je sais des choses sur Larry Strong, ça va être intéressant.
Moi, quand Mimi m'envoie sur Messenger, mais moi, je savais pas ça, j'étais là, ah ouais, donc vraiment, t'es encore capable d'être étonné par le show, quoi.
Et ça, c'est beau, vous savez, cool. On peut être surpris et faire des 180 émotionnels en oui. 2 minutes en mode je les déteste, ah non, comme vous l'avez probablement tous et toutes fait à la fin de cet épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ah, j'étais tellement contente de revoir Rhaenys Targaryen. Je l'adore, elle m'avait manqué, la femme de Corlys. Oui. Là. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vue et j'ai été émue par son deuil et sa peine. Deux fois dans cet épisode quand même, les parents Velaryon, ils ont pris ultra cher là. Même si, ben, il y en a un, c'est pas vrai, mais on verra s'ils finissent par avoir l'info ou pas. Je trouve c'est touchant son interaction avec ses petites filles. Mmh. Et en même temps elle a ce côté je veux pas que vous traîniez avec les bâtards, puisque bah comme on en a parlé, elle est dans la team, en fait le sang c'est important, et le fait que Driftmark, donc ce château où ils sont, le siège de la famille Velaryon, revienne aux bâtards de Rhaenyra et pas à ses petites filles à elle, ça lui pose un problème.
Ouais putain, mais en fait c'est...
Mais en fait, les gamins, ils s'en foutent de
ouais, c'est ça,
vraiment.
C'est en fait, foutez-leur la paix, quoi, tu vois. Ils sont juste là, ils viennent de perdre leur mère, et toi, t'es là, ils ne veulent pas parler avec les petits brins, là. Enfin, franchement, c'est tellement fucked up.
Ouais, c'est dur.
Mais bon, c'est aussi pour ça, j'imagine, qu'à la fin, ils finissent par tous s'entretuer.
Ah bah, écoutez, voilà. Ça s'appelle pas la danse des dragons parce qu'ils font le Mambo Number Five. Ça va être rigolo. Ok, on arrive à... La scène de la plage. C'est l'amour à la plage. Ah ou cha-cha-cha. Alors, on a la scène Corlys et Rhaenys qui parlent, mais du coup, on en a causé. Ils parlent au coin du feu. Ils sont pas d'accord sur le sang ou le nom. Voilà, on l'a. L'amour à la plage. Ah ou cha-cha-cha. Daemon et Rhaenyra se retrouvent sur le sable battu par les flots de Driftmark. J'ai un début de vanne sur la chatte de Rhaenyra qui est battue par les flots, mais je vais vous l'épargner parce qu'on se respecte quand même.
Ok.
Qu'est-ce qu'on a pensé de voir ces deux personnages enfin réunis ? Est-ce que tu t'es dit « Oh, ils vont ken ?» Est-ce que tu t'es dit « Oh, ils vont se taper ?» Est-ce que tu t'es dit
«
Oh, ils vont s'embrouiller ?» Qu'est-ce que tu t'es dit, tu vois ?
Moi,
est-ce que
suis...
déjà, maintenant que Daemon, il est célibre, tu t'es dit « Ah, maybe il va redraguer Rhaenyra ?» Ou comme elle est mariée, t'as fait « Bah, non. »
En fait, pour moi, je crois que la dynamique qu'ils ont depuis le départ, c'est en gros que c'est Rhaenyra qui lui court un peu après, qui le fantasme depuis des plombes, en fait, depuis qu'elle est gamine.
Ah bah, comme il lui dit, elle était vraiment gamine, oui.
Et en fait, je crois pas que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas lu le truc comme Daemon est ultra chaud pour ressauter sur sa... Donc, c'est... Attends, c'est quoi ? C'est sa nièce. genre jour 2 après la mort de sa femme.
Non, je pense pas qu'il est venu avec une capote dans sa poche
mais
arrière.
Mais fucking Rhaenyra, elle a chaud, quoi. Tu vois, on sent vraiment qu'elle a pas perdu de vue cet objectif qu'elle a, j'ai l'impression, depuis 10-15 ans, quoi. Et que c'est limite pour elle une blessure de pas avoir réussi à conclure plus jeune, plus tôt avec Daemon. Parce que quand tu vois en plus le bordel qu'elle vit avec ses bâtards et tout, elle se dit, mais en fait, si on s'était marié d'une manière ou d'une autre avec tonton, bah, en vrai, il y aurait pas de
souci. Le jour de son mariage, elle lui a dit, emporte-moi. Bute-les, emporte-moi, on va à Dragonstone et tu m'épouses et tu fais de moi ta femme, en fait, si tu me veux, let's go. Et moi, je suis dans la team. Elle le pensait vraiment. S'il avait dit, OK, let's go, elle aurait dit, OK, let's go.
Mais bien sûr, parce que, et surtout quand tu vois sa vie aujourd'hui, tu te dis, bah, ça serait quand même, j'imagine, beaucoup plus simple pour elle. Elle aurait des enfants Targaryens qui seraient des enfants Targaryens. Mmh. Elle aurait pas tout ce bordel. Parce qu'en plus, elle veut faire qu'une chose, c'est se barrer de King's Landing. Enfin, elle vient voir l'épisode précédent.
Elle est partie à Dragonstone dans l'épisode précédent. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est là où il se marie, du coup, à la fin. Ou à Driftmark. Avec Daemon.
Ah, c'est
à la fin de cet épisode.
Ah, je sais pas où il se marie.
Je sais plus où il se marie, à Dragonstone ou toujours à Driftmark.
Ça, c'est toi qui
dites-moi les nerds, dans les, moi, j'ai fait des captures d'écran des random PNJ de ce mariage pour savoir qui est qui, donc, j'ai taffé, dites-moi c'est où, j'ai oublié c'est où. Je crois que c'est peut-être encore à Driftmark, tout le monde est un peu habillé pareil. À la marque, ouais, c'est à Driftmark. Ok, il me semblait. Est-ce que tu penses qu'ils s'aiment, mutuellement? Parce que dans le chat, ils sont en mode, bah, moi, je pense qu'ils s'aiment, tu vois. Daemon et Rhaenyra.
En fait, je sais, c'est-à-dire que c'est tellement compliqué. Je crois, moi, je la vois quand ils se marient. Je la vois leur garder avec vraiment un regard d'amour, quoi. Tu vois, la façon dont elle le caresse et tout, c'est pas une caresse anodine, quoi.
Et même quand ils font l'amour.
Mais
ils baisent pas comme on a vu Daemon baiser un peu. À... Même quand ils étaient dans le bordel et que c'était hyper.
Après, il fait noir, on voit rien, donc bon.
Alors moi, j'ai vu car j'ai dû monter la luminosité pour faire des captures d'écran pour mon récap rigolo. Et aussi à partir du moment où Rhaenyra a posé sa main sur la gorge de Daemon, j'ai écrit à Fab, oh my god, le sexe, l'inceste, j'ai fait pause, j'ai fermé mon volet. Et j'étais là, on y va en home cinéma. Ça part, la luminosité, là, let's go. Et j'ai pas passé. Alors effectivement, la lumière est dégueulasse, la nuit américaine est dégueulasse. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est clairement filmé en plein jour et ils ont rajouté un filtre bleu, des étoiles dehors.
C'est honteux.
J'ai dit
hein,
à Fab, je vais me renseigner un peu sur comment ils ont filmé parce que ça m'intrigue ce choix, mais oui, c'est ça, apparemment. Je sais pas quoi. Enfin, vous êtes pas seul. Oui, c'est chum. Mais à part cette luminosité, du coup, que j'ai dû malheureusement upgrader pour faire des captures d'écran pour qu'elle soit lisible pour faire des vannes dessus, sinon on comprend pas qui on parle, c'est juste une image noire avec une vanne. C'est joli. Je pense que ce que je t'ai dit, c'est je pense que Miguel Sapochnik a beaucoup regardé comment la scène de sexe avec Kristen Cole, qui est très réussie, rappelez-vous, avant qu'on apprenne que c'est un connard, avait été tournée, qui était très sensuelle et tout. Et il a fait pareil, il s'est attardé sur les mains, il s'est attardé sur les regards, sur les petits moments et pas sur juste la pénétration en elle-même. Quoi.
J'aime bien que Daemon soit ultra... On voit ses cicatrices de ouf.
Oui, on voit la cicatrice de quand il s'est pris une flèche enflammée dans l'épaule sur son dragon à l'épisode du Crab Feeder. Et qui s'est fait, rappelons, quand même un peu des boîtes à cette occasion-là.
Oui.
Donc oui, c'est bien de rappeler qu'ils ont aussi des corps qui sont marqués par la vie. On n'a pas trop vu pour Rhaenyra, tu vois, des trucs de peut-être de fait qu'elle a eu 3 enfants, mais on l'a pas vu très nue et très dévêtue. Et je pense que du coup, c'est plutôt un choix de on va pas dévêtir les personnages féminins outre mesure, quoi.
Et c'est là vraiment que j'ai tilté sur le fait que en fait, Matt Smith, on a toujours l'impression qu'il a 30 piges. En fait, pour moi, ça marche pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas...
Mais ils ont l'air d'avoir le même âge quasiment.
C'est ça, exactement. Alors qu'ils ont...
Si tu vois un mec de 50 ans à la place, tu vois, un mec qui a la tête de Viserys dans l'épisode 1, c'est déjà un peu moins sexy, tu vois.
Bah oui.
Parce que là, ils sont vraiment alignés. Après, l'acteur est quand même très cool. Et je pense que ça fait partie des choix qui étaient compliqués à faire.
Ils ne vieillissent pas, tu vois, ils auraient pu
vieillir. Oui, non, ils ne vieillissent pas assez. Mais c'est ce que j'avais dit à l'épisode précédent sur Kristen Cole. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas, tu vois, mis des temps poivre et sel un peu. Ouais. Un petit truc qui te rappelle que le temps a passé. Bon, du coup, il a son corps couturé, il a retrouvé ses cheveux longs, Daemon, mais c'est pas incroyable en termes de changement. Mais ils vivent pas 200 ans, les Targaryens. Aesop qui dit, ils vieillissent pas vite parce qu'ils vivent genre 200 ans. C'est pas Aragorn, non, c'est a priori, dites-moi si je me trompe, mais les Targaryens, ils vivent normal. Le père de Viserys, il est pas mort à 128 ans, hein. C'est des humains. Salut Altef4. Je te laisse faire des recherches. Moi, je pense qu'il y a aussi, alors peut-être plus dans le choix d'épouser Daemon que dans le choix de coucher avec lui, mais bon, elle commence à savoir que coucher avec des gens, c'est un risque. Alors, il y a à la fois le fait de retrouver de l'amour, et sa famille, parce qu'au final c'est ça, The Dragon c'est une histoire d'inceste, et du coup je pense que sa famille lui manque énormément, elle a plus de famille, son père est complètement HS, sa mère est morte, elle a pas de Targaryen dans son entourage, à part les gamins de Viserys qui sont tous odieux et qui détestent ses gosses, et bah, Lenor est à moitié Targaryen, mais on voit qu'il est plutôt pas là pour elle, d'ailleurs ils ont une conversation à ce niveau-là, donc je pense que pour elle c'est retrouver sa famille, c'est retrouver une familiarité, quelqu'un qui la connaît et qui l'aime comme elle est. C'est ça aussi, surtout, c'est que Daemon aime toutes les parties de Rhaenyra que les gens lui disent de cacher, tu vois, son côté hyper sanguin, son côté Targaryen, en fait, son côté Fire and Blood, littéralement, et que ça lui fait du bien d'avoir ça qui est aimé, surtout à un moment où elle doit être combative, elle doit se défendre, parce qu'elle vient de se rendre compte que, ok, le thème des funérailles, c'est la bâtardise de mes gamins. À l'épisode précédent, elle a fui King's Landing parce qu'elle était acculée, parce que tout le monde savait, et que Arwen, il a dû partir, et il est mort maintenant. Donc vraiment, elle est très, très solo. Ouais. Et je pense que retrouver ça, ça lui fait du bien. Et je pense qu'il y a aussi un petit calcul politique. Je dis pas qu'elle est déjà en train de se dire on va se marier, mais en vrai, tant qu'à faire, c'est la pire, c'est la moins pire personne avec qui elle pourrait coucher, tu
en
vois.
En vrai, moi, je crois que d'entrée, elle se dit, il est temps de rejoindre tonton, quoi, tu vois. C'est ouais. Marrant aussi, j'aime bien ce truc, le fait que il se parle en, alors je sais plus,
en haut valyrien.
En fourche langue. Tu vois.
Eh, y a pas de respect. Il se parle en elfique, si tu veux.
Je sais pas. Tu vois, pour moi, c'est oui, juste. Je trouve ça marrant qu'ils se parlent tous les deux, effectivement, dans cette langue très particulière où Rhaenyra, elle parle avec personne d'autre en fourche langue qu'avec son tonton, quoi. Pardon. Vraiment, pardon, Léa Nord. Désolé. Je sais que là, vous avez pas tequila Tex et c'est là que j'imagine que voilà.
Et bah on voit que Daemon il apprend le haut valyrien à au moins une de ses filles, celle qui a un dragon, l'autre visiblement encore une fois il lui fait pas trop l'école à la maison, il s'en fout.
Mais c'est plus enfin c'est il y a une utilité directe de
oui, alors apprendre 5 mots pour dire arrête, mange et fais du feu, tu vois, ouais, ça c'est OK, mais il lui fait vraiment des cours quoi. Et on voit que les gamins blonds, ils parlent pas au valyrien, ils parlent que les mots qu'ils ont appris pour dresser les dragons, mais quand les dresseurs leur parlent en haut valyrien, ils doivent être traduits. Mmh. Donc il y a vraiment Daemon et Rhaenyra, c'est ceux qui sont le plus attachés à ça veut dire quoi être un Targaryen. Et c'est un des thèmes de la série, c'est est-ce que les gens s'intéressent à ça veut dire quoi être un Targaryen et qui ne s'y intéressent pas. Voilà. Blaze it indeed. Dès que Lena est morte, elle a voulu tonton. Putain, vous la voyez calculatrice. La go, elle vient de perdre aussi son amour, on sait pas, mais en tout cas, Arwen, elle l'aimait bien. Peut-être qu'elle s'est pas direct dit.
Mais Rhaenyra, elle est calculatrice sur la tub. De ouf, non?
Non, mais bien sûr, elle est calculatrice, mais en fait, tout le monde l'est dans cette série. Il y a pas Viserys qui est bête.
Non, mais non, parce que Aegon, il l'est pas du tout, tu vois. Typiquement, pour moi,
Aegon, il a 13 ans.
Non, mais ok, mais, pour moi, Rhaenyra.
Toucher sa bite.
Rhaenyra, quand elle a 13 ans, elle est déjà en mode, ok, let's go, c'est le trône. Et en fait, oui, elle a une opinion politique, elle a des, enfin, tu vois, elle essaie de s'imposer, ça marche
pas. Oui, mais je pense pas l'idéaliser, parce qu'en plus, j'adore le fait qu'elle soit parfaite. Et, à la fin, quand j'ai cru qu'elle, quand j'ai cru qu'elle faisait buter Lenor, j'étais vraiment genre, oh! C'est Bolzy. Ah, c'est Bolzy, on va la détester, ça va être trop bien. Au final, on la déteste moins, mais c'est bien quand même. On parle du gros dragon ou pas?
Mais oui.
Alors, qu'est-ce qu'on pense de Aemond dans les hautes herbes? Déjà, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ah, elle est morte, qu'est-ce qui va se passer avec son dragon?
Ah ouais, alors tout de suite, je me suis dit, est-ce que le dragon, il est en dep total parce qu'il a quand même cramé sa... Et j'imagine qu'il le sait, enfin, tu vois.
Ouais,
on ne rend pas compte à quel point c'est des labradors.
C'est fou à quel point. Alors, c'est possible. C'est pas la seule fois où un dragon va tuer par le feu son rider. C'est pas la seule fois où un dragon tue un Targaryen, parce qu'ils vont utiliser des dragons pour se battre entre eux. Hein, encore une fois, ça s'appelle la danse des dragons. Donc, les dragons peuvent aussi se battre entre eux, évidemment. Est-ce qu'il est triste? Alors, c'est dur à dire, on sait pas trop. C'est un peu comme est-ce qu'un cheval est triste quand son cavalier meurt, sauf que c'est un cheval magique qui fait la taille d'un immeuble. Mais il y a un autre moment, il y a un personnage qui meurt et on entend le cri de son dragon qui est pas avec lui au moment où il meurt, qui crie au loin, donc il y a une forme de lien. Après, est-ce qu'il est triste, etc.? On peut pas dire. Les dragons, en tout cas, une fois que leur rider meurt, peuvent bond avec un nouvel humain qui a du sang Targaryen. Et il n'y a pas de truc de ça prend plus ou moins longtemps parce qu'ils sont déprimés. Tous les dragons réagissent différemment. Il n'y a pas de règles. Parce que George R. R. Martin a décidé, frère, les dragons, il n'y a pas de règles. Après, c'est compliqué.
Ouais, bien sûr.
Donc, tu t'es quand même dit, ah, ok, ce gros dragon, il va se passer quoi?
Et puis surtout, tu le vois. Enfin, déjà, tu l'entends dans le ciel un peu en mode ouin ouin.
Tu l'entends
triste,
et Aemond, il tend l'oreille. Quand tu l'entends, il y a un petit plan sur Aemond qui fait « Ah yes, je vais arrêter de parler aux humains, je vais aller faire ça, je m'en fous de mes cousins. »
Exactement. Et en fait, effectivement, tu le vois après, tu vois le dragon en pleine dep où tu sais pas vraiment si en fait il est en train de dormir ou s'il est en train d'être dans son seum. Enfin, vraiment, je trouve que c'est plutôt bien fait parce que ça laisse un peu la libre interprétation au spectateur finalement. C'est à toi de décider. Mmh. Je trouve ça plutôt cool.
Est-ce que tu t'es dit il va cramer? Est-ce que tu t'es dit le gamin, ok, il va mourir quoi? Genre c'est une de ces scènes fortes où ils vont juste montrer un gamin mourir une mort atroce.
Non.
Parce qu'il y en a qui disent, je me suis dit, ok. Let's go, quoi.
Non, parce que pour moi, il fait pas tout ça. Enfin, tu vois, il montre pas tout ça pour après juste le faire cramer parce que à quoi ça sert? Enfin, tu vois, on le sait depuis le départ.
Il y a littéralement, je peux le dire parce que c'est pas dans la série, il y a littéralement un perso dans Game of Thrones. Voilà, on le suit tellement longtemps. Tellement longtemps. Il a des chapitres à lui, c'est lui qui raconte les chapitres. C'est hyper rare dans Game of Thrones qu'il y ait un nouveau personnage qui raconte de son point de vue. C'est Quentin Martell, il vient de Dorne, trop bien et tout. Et il veut se marier avec Daenerys et il décide qu'il va tame un dragon. Pour plaire à Daenerys et tout, il y va, bam, 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 il se fait cramer la gueule, c'est ciao. Il est mort.
Merci, Georges.
Ça répond à la question, est-ce que des dragons peuvent tuer des gens? Oui.
Ah oui, mais ça, c'était assez sûr. Vénère. Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à Aemon, tu vois, on sait depuis le départ que Aemon, il a pas de dragon et qu'en fait, il se fait bolos parce qu'il a pas de dragon. Donc là, on se dit, ok, c'est son moment à Aemon et on sent même qu'il est limite appelé, tu vois, par ce dragon.
Ah bah lui, il est obsédé, hein. C'est comme les gamins pyromanes, tu vois, il est là en mode, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Au mépris de toute prudence.
Et ça va lui donner tellement de pouvoir en plus, tu vois, tellement d'assurance, et tu sens que le gamin, il est là, ok, c'est mon destin, faut que j'y aille. Enfin, je trouve qu'il y a un truc vraiment hyper cool, justement, dans ce moment chasse au Pokémon, tu vois.
Il est vraiment littéralement dans les hautes herbes à attraper Dracaufeu, I mean. Il y a plusieurs gens qui disent, je pensais qu'il allait surprendre Rhaenyra et Daemon. Parce qu'effectivement,
ah, aussi,
ça suit,
pensé,
et ils sont sur la plage, ouais. Et du coup, ça aurait été intéressant. En même temps, je pense qu'il n'y aurait pas eu des répercussions de ouf, vu que
bah si,
c'est quand même l'infidélité et tout.
Ils auraient dû le buter, enfin tu vois,
il lui aurait fait Jamie Lannister.
Voilà,
ah ouais
ça.
Ouais, non mais ça, il l'aurait lancé dans le dragon.
Moi je me suis dit bah
il aurait dit au dragon vas-y attrape, il aurait balancé le gamin immédiatement.
J'y ai pensé une demi-seconde et je me suis dit OK, Bran Stark all over again, enfin c'est pas très marrant quoi, c'est pas.
Oui, c'est le clin d'œil est un peu gros. Oui. Mais non, écoutez, contre toute attente, ce gamin arrive à chevaucher ce dragon et s'en sort bien ish. J'ai trop aimé cette scène.
Ah, cette
parce
scène
que...
est géniale.
Alors, dans le dernier épisode, j'avais fait un point sur qu'est-ce qu'on sait des dragons et comment ça marche. Guess what? Rien. Vraiment. On sait pas pourquoi il y en a qui éclosent ou pas, on sait pas pourquoi il y en a qui se lient ou pas, et on sait pas comment ils montent dessus. Enfin, c'est très très vague. Et là, on a vu plein de trucs. On a vu ce truc où il lui parle en valyrien au début, il lui dit « serve », donc « serre-moi ». Il va vraiment vers ce truc qui fait la taille d'un fucking bus, quoi. Il lui dit « maintenant, tu es mon serviteur », enfin, d'un Airbus même. J'ai adoré qu'il y ait cette échelle de corde sur laquelle
oui.
Il monte. On s'était interrogé avec Tequila Tex la dernière fois. Lui, il avait pas compris. Il se disait, est-ce que c'est des lanières de peau du dragon? Et je lui ai dit, je pense que c'est des cordes un peu genre cordes de bateau qui font son habillage pour tenir la baleine. Et comme les Vélarions, ils viennent de la mer, c'est ça. Et je pense que tous les dragons ont une selle un peu différente et un système un peu différent pour monter dessus. On n'a pas encore vu d'autres dragons à escalader, mais je trouve que...
C'est hyper malin.
Ils l'ont montré comme Spider-Man quand il monte un immeuble, tu vois, c'est quand il escalade le dragon, tu vois pas le début, tu vois pas la fin, il est
déjà
sur son échelle de corde comme s'il montait sur un bateau et
mais
tout.
Déjà faut grimper une échelle de corde, c'est super dur hein.
Bah ouais, c'est
le tête, gamin
quoi.
Là, il est là, OK, let's go, j'y vais.
Ça se balance
et c'est
tout.
Super haut, ouais.
Le truc qui respire, il pue. Rappelons qu'on a établi que le dragon ça sent fort
ah
et
oui.
Que c'est le plus gros et le plus vieux dragon, donc à mon avis, il sent bien derrière les oreilles et sous les pattes quoi. Et le dragon, il lui fait un petit coup de pression où il lui rugit un petit truc de feu. Et Aemon, il lui dit, tu te
calmes.
Calme-toi
bien.
Et ça marche. Et là, let's go, ça part. Et c'est l'occasion pour Aemon de découvrir que conduire un dragon, ça s'apprend, finalement.
Bah,
et
pas,
que
ouais.
Le premier rodéo n'est pas évident tout de suite. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, il va tomber, il va mourir? Ou vraiment,
non.
T'étais là, ok, c'est son hippogriffe, il va...
C'est son hippogriffe, parce que...
Il va apprendre.
C'est juste, il apprend vraiment avec le plus gros dragon. C'est vraiment...
Oui,
c'est chaud.
Mais alors Léna a fait pareil à 12 ans, visiblement. Elle,
ah, okay.
Elle a conquis Vhagar, non, elle dit à 14 ans, je crois. Elle a conquis Vhagar qui était sauvage à ce moment-là à 14 ans. Donc, elle était BG la gamine. C'était dommage qu'on l'ait pas vue.
Mais alors,
ça a été dans
ah,
les.
Oui, on l'a pas vue. Oui,
bah
parce
non,
que oui, ils
les,
en parlent.
Dans le time jump.
Elle cherche à savoir où il est, c'est ça,
oui.
quand elle discute
oui, oui.
Avec Viserys. Ouais,
elle
okay.
Se renseigne très tôt dans sa vie et
putain, c'est vrai qu'on
quelques
l'a pas,
années.
Ça.
Et elle dit à sa fille d'ailleurs qui est triste de pas avoir de dragon. Moi, j'avais pas de dragon à ton âge et regarde, j'ai conquis le plus grand et le plus fort et le plus vieux des dragons. Donc, ne perds pas espoir. Et elle a bien raison
voilà.
Puisque. Alors ça va pas aller à sa fille malheureusement, miskine. Mais Aemon chope le dragon. J'ai trop kiffé ce vol en dragon. J'ai trouvé ça incroyable.
Ouais, c'est
vraiment, j'étais là, j'en prends plein la gueule. Juste, il y a des fois des moments où je me dis j'aimerais bien que ça passe au ciné quand même, tu vois. Y a
mais clairement.
Pognon. qui mérite, quand il y a un point of view en haut du dragon où les ailes se déploient, j'étais en mode ah. Est-ce que quand les filles le voient, donc il y a les petites filles de Lena qui le voient et qui réveillent, il s'appelle Jace, le grand de Rhaenyra, est-ce que t'as compris c'est quoi l'enjeu? Pourquoi elle le réveille? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, pourquoi c'est grave qu'il y a un mec sur Vhagar?
Bah parce qu'en fait pour elle, c'est le dragon de Lord Aaron.
Yes.
Pour moi c'est vraiment ça ce truc de non mais en fait c'est pas son dragon, c'est le dragon de maman. Donc au pire, maybe c'est le dragon de
Baela.
De la petite fille là, voilà.
Baela, Lena, qui en a pas.
Mais c'est sûr que bah en fait vous êtes pas sortis les doigts les meufs, tu vois.
Oui, et en même temps, il y a quelqu'un qui disait, c'est Rhaena, pardon, qui a pas de dragon. Il y a quelqu'un qui disait sur le chat, c'est quand même hyper mal poli. En fait, ça a un côté, en fait, c'est la version pour moi XXL de les funérailles où les gens commencent direct à se tirer la bourre pour qui va avoir le vaisselier et qui va avoir la bagnole et où t'as tout le temps, tu sais, des membres de la famille qui piquent des trucs direct dans la maison des funérailles pendant les funérailles.
Ça existe, ça?
Qui piquent l'argenterie, ouais, ça existe. Et qui pique l'argenterie, qui pique des objets de valeur, mais parfois juste sentimental, mais genre c'est moi qui veux la cravate préférée de papy, ah oui. Tu vois, je veux que personne d'autre l'ait, parce que c'est des bails de famille qui remontent et qui m'ont macéré longtemps, hein. Et du coup, je l'ai vu un peu comme la version extrêmement XXL de ça, c'est genre, ah, il a volé la Porsche de maman, mais en fait, personne s'est dit, quelqu'un va piquer le dragon, la nuit même des funérailles, tu vois, qui fait ça. Il n'y a pas tant de monde qui peut le faire, il n'y a qu'un Targaryen qui peut le faire. Et bah on est en famille, tu vois, c'est comme si vraiment ton cousin il se barrait avec la Porsche de mamie au funérailles de mamie, t'es un peu genre mais quel connard celui-là. Bah oui, c'est succession.
Let's go.
Peut-être qu'ils auraient dû mettre des gardes du corps de dragon, au moins une petite sécurité, tu vois, un truc, parce que là le gamin il y allait, alors certes vaguement discrètement, mais il se cachait plus du dragon que du château où il était clairement, et puis après il a fait son grand tour quoi. Et après c'est la bagarre des gamins.
Oh, putain, cette bagarre.
C'est dur comme bagarre, hein.
C'est vraiment les nions qui s'envoient
petit
dans la
respect
gueule.
Respect pour Aegon, qui était occupé à décuver, qui a tout raté, qui était pour une fois, il était mêlé à rien, il était là, c'est pas de ma faute, ouais, je me fais accuser. Mais à part ça, il y a tout le monde.
C'est là que tu vois la violence des gamins vis-à-vis de... Enfin, entre eux, en fait, tout simplement, qui sans doute annoncent, tu vois, un gros, gros bordel entre les familles à venir, quoi. C'est complètement ouf.
Il y a Najini Bikini, incroyable hâte, qui dit Aemond, c'est un bel exemple de gamin harcelé qui devient harceleur, quoi.
Ouais.
Qui devient pire que ceux qui l'ont harcelé. Parce qu'effectivement, alors, déjà, les deux gamines lui ont rien fait, ils sont jamais vus. Donc, pour le coup, elles étaient pas dans les moqueries et tout. À un moment, il lui dit tu pourras dire à tes cousins de te faire un dragon avec des ailes, et elles sont là, frère, on se connaît pas de quoi tu parles, vraiment, c'est pas notre vie. Donc, vraiment, ils ont pas d'inimitié, mais ils ont ce que leurs parents leur ont inculqué, c'est-à-dire, vous êtes ennemis, vous êtes des rivaux, vous êtes des menaces les uns pour les autres. Et la violence est tout de suite hyper réelle, quoi. Ça se met des patates. Je pense que c'est bien aussi qu'on ait eu, à l'épisode précédent, une scène où ils s'entraînent avec Kristen Cole. Mmh. Parce que, en fait, on oublie parfois, et du coup, c'est peut-être pas le cas pour les filles, ou moins le cas, qui sont entraînées à se battre de façon pro, et le gamin, il t'envoie des patates de forain. J'étais là, ouf. C'est Robert Baratheon qui met une droite, quoi. C'est quand même vénère. Et il prend une grosse pierre très vite, et j'étais là, oula.
Moi, je croyais qu'il allait le tuer, à ce moment-là.
Tu pensais qu'il allait tuer un des petits de Rhaenyra?
Ouais.
Ah ouais, ça aurait été chaud. Oh, les conséquences de ce truc. Et finalement,
il hésite. Et c'est son, c'est son hésitation qui finit par lui coûter son œil.
Alors qu'ils sont à 4 contre lui. Ouais. Comme quoi, dompter le plus grand dragon du monde, ça vous met un petit boost d'adrénaline qui vous permet d'enchaîner à 4 contre 1 vos cousins, cousines. Mais l'entraînement a pu aider aussi. Et puis il a quelques années. Il est un tout petit peu plus vieux, mais pas beaucoup plus vieux que Jace, le plus grand de Rhaenyra. Qu'est-ce que quid de cette énucléation? Du fait qu'il perde un œil, de cette violence extrêmement réelle et définitive. Comment tu l'as vécu de voir un gamin de 12 ans se faire crever l'œil par son cousin après avoir volé le dragon de sa tante? Qu'est-ce qui se passe dans cette
déjà je trouve qu'il s'en sort bien.
Oui.
Parce que en vrai, il aurait pu se faire planter de façon mortelle beaucoup plus.
C'est pareil dans les livres Coquelicorico. C'est pour le coup c'est la même chose, il y a peut-être des détails qui changent mais il se bagarre parce qu'il a, enfin, il prend Vhagar. Du coup, il se bagarre. Du coup, il se fait attaquer par Luce. C'est le petit de Rhaenyra, c'est pas le grand, qui l'attaque et qui lui crève un œil. Voilà.
Et tu vois, ce qui me fume un peu, c'est que, en gros, Viserys, dans la scène d'après, à aucun moment, il lui dit non, mais en fait, c'est pas ton dragon, donc tu vas.
Bah, en fait, dans la scène d'après, il parle pas du dragon. Bah, c'est alors, il peut pas le rendre. C'est trop tard. Un dragon. Quand il est bound avec un humain, il est bound avec un humain. Tant que l'humain, il meurt pas, c'est son dragon. Donc c'est aussi pour ça que c'est abusé qu'il l'ait pris. C'est pas je fais un tour et je m'en vais. Si le dragon t'accepte, c'est ton dragon.
Ah ouais,
et
non,
toi, tu peux avoir un autre dragon si ton dragon, il meurt. Le dragon, il peut avoir un autre rider si le rider, il meurt. Aucun dragon n'a eu plusieurs riders vivants en même temps. Ce qui va peut-être poser souci avec le dragon de Lénor, d'ailleurs, qui n'est pas mort, finalement. Tout le monde croit qu'il est mort, mais son dragon peut pas être de nouveau claim par quelqu'un. Mais on en parlera au moment des questions-réponses à la fin, un peu précises. Donc en vrai, si, il a vraiment piqué la Porsche de Tata, mais genre, il part avec, quoi. Il peut pas, c'est pas, je fais un tour de pâté de maison et je la ramène.
Mais c'est vraiment une petite ordure, quoi.
Oui, c'est une petite ordure. Et en même temps, comme tu dis, bah, il est balls d'y aller.
Ouais.
No pain, no gain. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et il a apporté énormément de puissance de feu, du coup, à son côté. Et alors, on a vu, dans sa discussion avec Aegon, dans son attitude en général, y compris dans l'épisode précédent, que lui, il a à cœur ces histoires de Targaryen,
ah oui,
de jeu des trônes. Lui, il serait OK pour se marier avec sa sœur.
Ah oui.
Il prend ça très au sérieux. Donc, c'est pas anodin non plus qu'il ait pris la plus grosse arme, quoi, pour la mettre dans son camp.
Mais c'est normal, d'un autre côté, c'est le petit frère, tu vois. Il y a toujours ce truc,
oui,
pour moi, entre les petits frères et les grands frères, de se construire en opposition par rapport aux grands. Donc, comme l'autre, il s'en branle complètement, bah, le petit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, eh bien, très bien, s'il y a une place, moi, je vais m'engouffrer dedans, je vais devenir le fiston à sa maman, quoi.
Oui, le bon fiston à sa maman. On va voir si c'est un fiston à sa maman en grandissant ou pas. En tout cas, il a
la
dit...
meuf spoil sans spoiler. Ça
j'ai
m'énerve
dit,
quand elle fait ça.
J'ai rien dit.
Elle fait souvent ça, vous savez. Ça vous énerve
je
aussi dans le chat.
Ça. Non.
Elle fait
les
souvent
gens
ça. Et en fait, c'est énervant parce que elle dit des choses sans les dire, tu vois. Et après, moi, je suis là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, je sais pas, je dis pas. Et voilà. Voilà, ça énerve tout le monde, je m'en doute.
Et Zoc a l'air d'accord. Effectivement, on a du coup. La meilleure scène, je pense, de l'épisode, ce qui est dur parce qu'on a beaucoup des séquences incroyables, notamment cette séquence de dragon.
Cet épisode est génial.
Ce débat, alors j'ai vu dans un des podcasts que j'écoutais, il le comparait à la mini-série The Slap, qui est une mini-série où c'est une famille et des voisins qui se retrouvent et il y a un adulte qui gifle un enfant qui est pas un des siens. C'est genre dans notre monde et tout. Et ça part en couille parce qu'il y a les parents qui sont là, d'où tu touches mon enfant, d'autres qui sont là, mais ton enfant, il était un sup. Et en fait, c'est un huis clos de parents qui deviennent maboules autour d'eux. Il y a un gamin, honnêtement, un petit peu insupportable, qui s'est pris une claque par un adulte qui n'était pas son adulte référent. On l'a vu ensemble, la version australienne.
Ah oui, c'est ok, d'accord. Okay,
avec Tony Collette, qui est vachement cool. Et là, c'est tout le monde est réuni dans une seule pièce, tout le monde se hurle dessus. Il y a les gamins qui sont là en mode, et lui, il a fait ça, et elle a fait ça. Il y a Alicent qui est là, qu'on leur coupe la tête. Il y a Rhaenyra qui fait, excusez-moi, j'étais en train de baiser, j'ai raté quoi. Il y a Aegon qui est en gueule dub. Il y a Daemon dans un coin qui s'appuie contre la porte et qui fait. Sup, il se passe quoi?
Alors, déjà, est-ce qu'on pourrait décider d'un truc dans le royaume du Viserys? C'est que on règle les bails avec
en
que
privé.
Les gens qui sont
en privé.
Vraiment que les gens qui sont concernés.
Ah,
c'est
là,
un truc
tout
de
le monde
ouf
a un avis. Tout,
tout
le
là,
temps.
Tout et puis devant tout le monde, devant toute la cour, devant tout le bordel, j'ai là. Mais vraiment, faites en sorte de juste régler les trucs entre vous. Mettez les gens, prenez les gens séparément. Enfin, tu vois, là, c'est un bordel.
Ouais.
Dis, mais d'ailleurs, il finit par faire un gros coup de colère,
gros
Viserys, comme
ouais,
on l'a.
Il invoque son Robert Baratheon, stop this madness in the name of your king. Ça marche vite fait, il dit quand même
little,
trois fois calmez-vous avant que ça marche.
Too
mais
little too late.
Oui, c'est un peu tard pour s'y mettre, oui, clairement.
Voilà. Mais c'est vraiment un truc de ouf de non mais arrêtez de faire en sorte de régler vos problèmes devant l'intégralité du monde, quoi. Je
oui.
comprends pas ça.
Sauf Lénor qui effectivement n'est pas là probablement.
Jamais.
Qui peut accuver le deuil de sa sœur avec Karl, son amant
surtout
et Annie dont
Ken.
Nous parlons. Peut-être en train de ken. Cette scène est évidemment incroyable et je trouve que c'est quand même un tour de force d'arriver à cristalliser toute cette tension autour du sujet de la bâtardise, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisque les enfants, ils ont fini par sortir des armes au moment où il y a eu l'accusation de bâtardise et de tu vas brûler vivant comme ton père. Sous-entendu, Arwen Strong et pas Lénor. Et d'ailleurs, le petit, le gamin, Luce, il sait pas, il se met à pleurer, il est là, mais de quoi vous parlez? Mon père, il est vivant, c'est Lénor, tu vois. Et ils sont là, il a pas eu le mémo. Vraiment, faut suivre, hein. Tout le monde en parle tout le temps.
Horrible.
Mais il est petit, quoi. Il doit avoir 8-9 ans, bref.
Même
et
pas,
en fait, d'arriver...
Moi, il a plutôt 6-7, là.
Ouais, il est pas... Bah, c'est lui qui crève l'œil, quand même. Hein. C'est le petit, c'est pas le grand.
Sans aucun problème, tu crèves un œil à 6-7 ans.
Avec une bonne dague de noble, là, ça se fait très vite.
Yes.
Quand t'es élevé comme ça. Et en fait, de cristalliser ce problème de bâtardise et ces tensions, c'est l'aboutissement pour moi, cet épisode de, cet épisode précédent sur les tensions entre Rhaenyra et Alicent. Donc c'est pour moi la preuve, s'il en fallait, que c'est ce préquel de 5 épisodes sur leur jeunesse valait le coup. Parce que vraiment, sinon, on comprend pas pourquoi elles se détestent autant. C'est compliqué, je pense, de rendre tout ça. Et l'aboutissement de seulement un épisode de, au fait, il y a des bâtards et c'est un problème. Et je trouve que c'est ouf que ça monte en tour aussi, enfin, Alicent, elle plante Rhaenyra quand même devant tout le monde, et je trouve qu'on y croit. On comprend pourquoi elle pète un câble, on comprend pourquoi c'est un tel sujet, ce truc de bâtardise, on comprend pourquoi ça pouvait pas tenir plus longtemps, parce que c'est le troisième, parce que Arwen il est plus là, parce que tout le monde, y compris Aegon, le propre fils de Viserys, lui dit vraiment, papa, tout le monde sait. Il y a plus personne à part Viserys qui arrête d'y croire, et Viserys déjà n'avait pas beaucoup de pouvoir de base, et en plus là, il est vraiment, voilà, il y a un coup de vent, c'est ciao, quoi. Donc, plus personne ne, et en fait, il se rend compte que même ses fils, ils sont pas dans son camp, quoi. Personne est dans le camp de Rhaenyra, il y a pas grand monde.
Et pour moi, donc, cette scène montre aussi le, pour moi, c'est l'aboutissement de la scène finale de l'épisode d'avant, où Alicent est vraiment en mode enfant gâté total de, non, mais en fait, il y a personne qui s'intéresse sauf à moi, tu vois.
Oui,
en fait,
si personne mon père était là, ok, il serait pas en personne, mais il serait personne envers moi.
Exactement, où t'es là, mais meuf, et d'ailleurs, c'est Larry, c'est ça qui lui dit, mais en fait, ça serait pas une bonne main s'il faisait ça.
Oui, enfin, il dit en tout cas, il serait pas impartial. Voilà. Elle dit, non, mais Lionel Strong, il est pas du tout impartial puisque son fils, c'est les enfants des, le père des enfants de Rhaenyra. Alors que si mon père était là, il fait, bah, il serait pas impartial non plus. Elle est là, oui, bah, alors, c'est pas ça que je te dis. Mange ta tourte là.
Elle est tellement insup.
C'est marrant, il y a Anok Gaming qui dit c'est le premier épisode où Alicent me paraît être un personnage cohérent. Énorme Cersei vibe avec Viserys qui l'appelle Emma au début de l'épisode, tu la sens acculée, isolée, nourrie d'aigreur et tu comprends enfin sa colère. C'est hyper intéressant de voir ce personnage qui pète un câble de façon aussi... J'ai eu un petit doute, je me suis dit est-ce que ça va peut-être être un peu too much pour les gens, le fait qu'en plus elle le fasse en public, le fait... Alors il y a beaucoup de questions sur pourquoi elle n'a pas été punie d'attaquer physiquement la future reine. Mais parce que Viserys n'a pas de couilles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a Criston Cole qui a tué à main nue le meilleur ami du futur prince consort, donc le roi époux de la reine de Rhaenyra, de Laenor. Il s'est rien passé, enfin... En fait, elle peut-être, je peux vous dire peut-être qu'elle sera punie dans le prochain épisode, mais je pense pas qu'elle va être punie. Elle essaye de dire vaguement qu'elle est désolée à Viserys à la fin de l'épisode, et il est là dans sa carriole en mode « N'en parlons plus, n'en parlons plus, vraiment, il est au bout de sa vie ». Donc en fait, il est pas puni parce qu'il a pas, elle est pas punie parce que Viserys a pas de couilles et parce que Rhaenyra, elle va pas pousser pour qu'elle soit punie de 5 coups de fouet. Rhaenyra, elle est là, on n'est pas à 5 coups de fouet près là. Let's go. On est sur un jeu beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux qui met en jeu la vie de nos enfants. C'est pas 5 coups de fouet qui vont régler quoi que ce soit. Donc Rhaenyra, elle va même pas pousser pour faire un châtiment un peu public, je pense. Donc c'est pour ça qu'elle est pas punie officiellement quoi. J'ai trop aimé ces moments où il y a des dynamiques autour des gardes, où elle dit à Criston, va arracher l'œil d'un des gamins, et où même Criston, il est là.
Not my job.
Bof. Et de voir que le, je sais pas si t'as vu ça, mais le chef de la garde, donc le chauve là, écossais, en fait, ça se voit que tout le monde méprise Criston dans la garde, dans la King's Guard. Personne, il est vraiment juste avec Alicent, et personne le respecte, probablement depuis qu'il a tué un gars à main nue qui était désarmé, enfin, qui était pas très armé en tout cas. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il dit non très vite, c'est qu'il sent que tous les regards sont sur lui et qu'il a déjà une sale réputation. Peut-être que dans un cadre privé, sans témoin, c'est pas, peut-être qu'il le fait, tu vois, pour rester dans la team Alicent. Je sais pas si l'acte est au-delà de lui, mais l'acte en public est au-delà de, il est trop malin pour ça, tu vois, lui.
Ceci dit, il veut quand même intervenir quand Alicent, elle saute sur Rhaenyra.
Oui.
Et c'est Daemon
qui... Mais parce qu'il déteste Rhaenyra.
C'est parce que, et Daemon l'empêche d'intervenir.
Daemon, c'est le seul moment où il sort un peu les doigts, c'est pour empêcher Criston d'avancer vers Rhaenyra, parce que pour le coup, Criston, je pense qu'il veut bien que Rhaenyra, elle meure, ou qu'elle soit blessée, assez méchamment, et Daemon a un compte à régler avec Criston, qu'il avait défait en tournoi, et qu'il avait attaqué dans le dos, en plus. Donc, c'est peut-être, ça fait longtemps qu'ils sont pas vus aussi, et je pense que Daemon est toujours très content d'aller lui mettre un petit coup de pression. Mais j'ai beaucoup aimé ce truc avec les gardes et je trouve encore une fois que ça participe à enrichir l'univers, même si voilà, il y a la cristallisation de cette opposition entre les deux femmes. Qu'est-ce que t'as pensé de ce dialogue en tête à tête, tout près, où elles se disent enfin les choses pour de vrai, tu vois?
Encore une fois, je comprends pas pourquoi elles se disent ça devant tout le monde, mais peu importe. Après, pour moi, je suis assez d'accord avec Rhaenyra quand elle dit, eh ben, ok, c'est cool. Pour la première fois, on voit ton vrai visage, en fait.
Oui.
Parce que jusque-là, Alicent, elle était en mode petite fille bien gentille, propre sur elle, etc. Je fais tout bien comme il faut, nani nana. Et là, d'un coup d'un seul, en fait, elle montre l'ambition qu'elle a. Et finalement, l'ambition qu'elle a depuis le début, depuis que son papa lui a dit, dis donc, va t'occuper du roi. Moi-même, le premier, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, en fait, il est juste en train de lui dire d'aller prendre soin de lui et d'aller le réconforter, pas en mode vas-y, si tu vas le pépon un petit coup, il y a moyen que tu deviennes la reine, quoi. Et finalement, c'est ce qu'elle tout ce jeu-là et de se payer cette vie qui doit quand même être extrêmement insupportable avec ce con de Viserys, bah, ça finit par aboutir à... Bah, t'es là aussi pour jouer dans le jeu et pour être dans le jeu. Et je trouve que c'est la première fois qu'elle le montre aussi clairement et de façon aussi visible. Parce que jusque-là, elle est ultra sournoise, en fait. En permanence, elle joue ses petits coups dans ses combats, etc.
Alors, c'est un truc que j'avais pas pendant le live de la semaine dernière, mais que j'ai eu après. Mais apparemment, une des visions du personnage de Alicent qu'ils ont donné à l'actrice pour qu'elle construise son travail, c'est une femme qui vote Trump. C'est une femme conservatrice qui se persuade qu'elle peut gagner en jouant à l'intérieur du système misogyne.
Ah, oui.
Bah, Karen, il y a un côté un peu hystérique. Alors, c'est un peu une Karen quand elle est hystérique avec ses enfants. C'est plus ces femmes républicaines élues, tu vois, qui font avancer le système politique de droite et qui soutiennent Trump et qui soutiennent des systèmes misogynes en se disant que si elles jouent le jeu du patriarcat, elles pourront gagner à l'intérieur du système et qui sont étonnées quand le patriarcat se retourne contre elles. Ce qui a fini par donner un mème aux US, entre autres, c'est « Oh non, le léopard a mangé mon visage !» se plaint la femme qui a voté pour le léopard mangeur de visage, qui joue un peu sur l'idée qu'on pense que c'est pas à nous que vont s'appliquer les régimes pour lesquels on peut voter. Et en fait, oui. Donc je trouve que c'est intéressant dans cette idée de sournoisité, de « elle cache tout sous la décence, c'est ce qu'il faut faire, c'est le bien, c'est moi qui suis posée, c'est toi qui es hystérique ». Elle attaque Rhaenyra qui a une montée de lait dans l'épisode précédent de façon odieuse. Et là, effectivement... Elle est libre. C'est une femme entière. C'est une femme Barbara Gould. Waouh, cette vieille rêve. C'est une femme qui ne fait plus de demi-mesure.
Et je tiens à dire que l'actrice qui s'appelle Olivia Cooke.
Oui.
Et qui est canon. Je trouve
elle est trop bien.
Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur Apple TV une série dans laquelle elle joue qui s'appelle Slow Horses, qui est une série d'espionnage avec.
Avec Gary Oldman.
Oui, avec Gary Oldman, dont je t'ai déjà parlé, je crois. Et en fait, elle a un rôle assez central dans cette série, d'ailleurs. Qui est canon. Voilà, je tenais à dire.
Yes.
J'ai adoré cette série, vraiment.
Je suis d'accord.
Tu l'as vu?
J'ai entamé.
T'as pas aimé.
Trop lent pour le moment où
c'est un peu lent
dans ma vie.
Oui.
Ça s'appelle Slow Horses, c'est pas pour rien.
Oui.
Il y a quelqu'un, ah oui, c'était intéressant, pardon, c'est Adel Waddle qui dit « Contrairement à Cersei, j'ai même pas l'impression qu'elle aime ses enfants. Peut-être ce qu'ils représentent, mais elle est ultra violente avec eux. » Alors c'est vrai qu'on se sent, il n'y a pas de moment très tendre entre Alicent et ses enfants. En même temps, il n'y a pas beaucoup de moments tendres entre Rhaenyra et les siens. Enfin, il n'y a pas beaucoup de moments entre les parents et les enfants qui sont pas juste « Attention, tu vas mourir, attention, c'est très grave, ouais. Le trône. » Je sais pas à quel point elle aime ses enfants, je suis pas sûre qu'elle soit ultra attachée à la maternité en général. Et aussi, dès le début, elle a vu ses enfants comme potentiellement en danger, quoi. Elle a pas pu créer une relation de mère à ses enfants qui est pas teintée par quand Rhaenyra elle sera reine, peut-être qu'elle va les buter. Et par le fait qu'elle les a eus avec Viserys et tout. Enfin, c'est quand même hyper touchant. Quand elle pète un câble et qu'elle va planter Rhaenyra, le premier truc qu'elle lui dit, c'est « Est-ce que j'ai pas toujours fait ce qu'on attendait de moi ?» C'est vraiment, elle est là. En fait, j'ai joué le putain de jeu avec les putains de règles que tout le monde m'a donné. Pourquoi je suis toute seule? Pourquoi tout le monde est contre moi? Pourquoi j'ai l'impression que lui, papy, va mourir? Toi, tu vas buter mes gosses et tout le monde s'en fout. Et mon gosse vient de se faire crever l'œil et on me dit que c'est pas grave. Enfin, tu vois, elle a vraiment un côté. J'ai pas demandé à être là, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire et je perds quand même à la fin, quoi, car c'est le lot des femmes dans le patriarcat.
Mais c'est
pour ça aussi que Cersei elle est folle.
Et c'est surtout que c'est son père qui lui a mis ça dans la tête, encore
une
fois.
Son père, il lui a bien vrillé, mais heureusement il est de retour, donc il peut la féliciter.
Quel énorme FDP, quoi, je te jure.
Après cette bagarre.
Parce que peut-être qu'il a raison politiquement, mais peut-être pas du tout.
Non, c'est ça. C'est une prophétie auto-réalisatrice.
Olé.
C'est ma vanne préférée.
Allez.
De podcast, je l'adore.
Mais c'est, en fait, c'est ouf parce qu'il part de ce principe-là, alors qu'en fait, Rhaenyra, elle n'est pas du tout obligée de se sentir menacée par Aegon.
Otto fout ça dans la tête de Alicent qu'il fout dans la tête de Aegon. Et ensuite, Rhaenyra, elle a ses propres prétentions au trône qui sont menacées par le patriarcat en général. Je suis pas sûre que Daemon va l'aider à être apaisée et confiante dans la vie, on va pas se mentir, ça a pas l'air d'être le type du gars. Donc c'est que, ouais, c'est un cycle de la violence et de la paranoïa qui se reproduit et qui fait que ces gens qui pourraient peut-être vivre en bonne entente et renforcer leurs liens, comme Viserys essaye désespérément de leur dire « mais on est une famille, on n'est pas censé s'engueuler ». Je suis là, déjà, t'as connu des familles dans ta vie, ça s'engueule pas mal. Et aussi, mais c'est trop tard, quoi.
Ça me rappelle une série qui s'appelle Succession, où, effectivement, à un moment donné, les enfants sont sur le point de se liguer contre le daron, et le daron fait un truc magnifique. Je vous spoil pas, mais vraiment, il y a ce truc où ça manque cruellement d'amour.
Il ne fait pas des crêpes, par exemple.
Non.
Comme mon daron nous faisait, car mon daron est très gentil.
Ça manque toujours cruellement d'amour, tout ça. Bref, c'est pour ça qu'il y a des séries dramatiques aussi.
J'ai trouvé ça un petit peu... pas très subtil, mais pas inintéressant, qui montre clairement Otto qui vient féliciter Alicent.
Oui.
Je pense qu'on s'en doute qu'il valide ce move, mais ça rentre un peu dans ce truc de pourquoi il n'y a pas de conséquences, pourquoi elle n'est pas punie. Bah en fait, parce que tout le monde s'en fout globalement de ce qui s'est passé, parce que aussi c'est une situation très complexe. T'as la femme du roi qui se bat contre la princesse héritière, ça explique aussi pourquoi les gardes sont un peu restés comme ça en mode... C'est compliqué. Et dans l'épisode précédent, Christian, il disait, en fait, mon boulot, quand c'est un prince qui tape un prince, c'est compliqué, quoi, de protéger la famille royale. Et du coup, bah, c'est pour ça que sur le coup, il n'y a pas eu énormément de réactions. Mais, c'est évident que Otto, il va applaudir sa fille. C'est pas très subtil qu'il le fasse aussi clairement.
Oui, puis
mais
c'est
ça
cool.
nous rappelle qu'elle est sous enfin, que son retour n'est pas une bonne nouvelle pour Alicent. Ça va pas l'apaiser, quoi.
Globalement, et surtout qu'en fait, elle vient chercher la validation de papa. Il y a aussi ce truc de...
Alors moi, je pense qu'elle est sincèrement désolée, quoi. Elle lui dit, je me suis tournée en ridicule, j'ai fait un truc horrible. Elle est vraiment, en plus, elle a quand même été élevée dans cette idée de décence et de retenue. Je pense qu'elle se sent pire que merdeuse, tu vois, pire qu'après une soirée où tu sais que t'as trop picolé et t'as fait n'importe quoi. Elle se sent mal, elle sait en plus que du coup bah ça va être elle a perdu du terrain, elle va devoir le regagner et tout, et Otto lui donne la seule chose qui lui fait du bien sur le coup, c'est de la validation. Mais je pense que ce qu'elle cherchait, c'était peut-être d'être rassurée, qu'ils lui disent bon écoute, on va faire ça et ça pour rattraper les dégâts, mais pas qu'ils lui disent bravo, t'as bien fait, tu as enfin prouvé que t'es prête à jouer ce jeu et que t'es prête à être assez littéralement, il félicite ta fille d'avoir sorti un schlass, le schlass magique, la lame magique bien sûr, pour planter la princesse, quoi, la fille de son époux. Donc Otto, l'ambition, ça fait mal. Petit point schlass magique. J'ai eu plusieurs questions sur pourquoi il n'y a pas de sang sur la dague. Donc, Alicent attaque Rhaenyra avec la fameuse dague Catspaw, qui est la dague en acier valyrien que Viserys a toujours à la hanche, et où il a montré à Rhaenyra que dessus il y a la prophétie de l'anneau unique, blabla, de la Long Night qui est inscrite. Bon. Et c'est une dague importante, puisque c'est la dague qui finit par tuer le Night King dans Game of Thrones. Voilà, je vous avais dit qu'on allait spoiler. Il y a pas de truc magique avec l'acier valyrien qui ne prend pas le sang. Je pense que c'est juste un truc de réalisation parce qu'ils ont pas vraiment entaillé de la peau et du coup peut-être sur le plan où Alicent récupère la dague, il y a pas de sang dessus. Mais on voit bien que Rhaenyra elle est entaillée. On a un plan suture médiéval absolument délicieux. Il y a un gros thème sang dans cet épisode. Guess what? Fire and Blood. Il y a du sang quand Aemond se fait crever l'œil. On voit bien le sang qui coule. Il y a du sang sur la suture. Il y a du sang à la fin pendant le mariage. Donc il se passe beaucoup de choses liées au sang. Donc je vois pas de quoi vous parler en disant il y a pas de sang sur la dague, mais je pense qu'il y a rien de... C'est un truc de montage, c'est un truc de mise en scène. La dague magique, elle devient quoi? On voit pas le roi la récupérer. Kristen la récupère. Oui, j'imagine que... En vrai, c'est une dague très précieuse. Je pense que quelqu'un l'a récupérée et refilée à Viserys, Fissa. Et peut-être que tout le monde va mourir de septicémie à la fin à cause du fait qu'ils se font planter par la même dague tout le long. Lenor et Rhaenyra. The Talk. C'est cool. Lénor, c'est vraiment un good guy. C'est trop une belle scène, je trouve, parce que donc il lui dit, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas pu protéger ma sœur, je suis pas en train de te protéger par rapport au danger que tu traverses, qui est ce qu'elle lui a reproché à l'épisode précédent. Elle a dit, en fait, ton boulot, c'est d'être à ton poste quand il y a la tempête. Et là, on est là dans la tempête parce que mes bâtards, c'est aussi ton problème. Et je pense pas que Lénor pourrait être exécuté ou quoi d'avoir que sa femme ait des bâtards, tu vois, mais concrètement, ça le mettrait pas dans une très bonne position. Et on n'est pas dans un truc. Je crois pas que c'est un truc genre l'homosexualité est punie de mort, mais je pense que tu finis probablement au mur si t'es trop déviant, on va dire, sexuellement, surtout quand t'es fils de noble. Donc c'est quand même risqué, et là il lui dit, j'ai pas été à la hauteur, j'ai envie de te protéger, j'arrête mes conneries, je pars pas dans les stepstones, je vais rester être un bon mari pour toi, et on apprend aussi qu'ils ont essayé, quand même, de faire des enfants. Tout le monde était là à l'épisode précédent, mais ils auraient pu essayer quand même de faire des gamins légitimes. Et ben ils ont essayé, et la génétique a ses raisons que la raison ignore, et en tout cas, à ce qu'on sache, ils n'ont pas réussi à procréer. Est-ce que tu t'es dit, ah cool, ils vont s'allier, ils vont faire un bon couple, ils vont pouvoir agir ensemble, ou est-ce que tu t'es dit, c'est trop beau, il va y avoir une couille, il reste 15 minutes d'épisode, ça va jamais marcher?
Non, franchement, je me suis dit, enfin non, j'y ai jamais cru.
Moi maintenant, et c'est pas que parce que j'ai lu les livres, mais parce qu'en plus à la fin, plot twist, c'est pas si pire. Mais vraiment, à chaque fois qu'ils disent... Ok, maintenant, ça va entre nous, je suis là. Bon, il y en a un des deux qui va mourir,
c'est bien comment ça va se passer. Non, non, franchement, c'est très chouette qu'ils fassent tout ça, mais déjà, c'est un peu trop tard, mon vieux. Enfin, on a vraiment l'impression que ça fait...
C'est trois gamins plus tard.
Des
quoi.
Années, voilà, c'est ça. Ça fait des années qu'il est en train de faire nimp.
Après, comme il a dit, ils ont essayé. Et en vrai, il était... Oui, il n'a pas fait nimp. Elle était moins en danger, quoi.
Oui, mais
ce qu'elle
en fait,
lui reproche, c'est là, mon gars, je suis vraiment en danger.
Ça fait,
avec
ça
moi,
fait,
tu vois.
Enfin, ça fait trois bâtards qu'il a, quoi. Tu vois, ça fait trois gamins.
Oui,
donc, à un moment donné,
oui.
Où ça va.
Oh, mais ils sont détendus tous les deux.
T'aurais pu te rendre compte. Oui, c'est ça.
Oui, oui. Non, mais oui, il a pas, comme il dit, il a pas été à la hauteur. C'est mignon quand elle, alors c'est aussi une série 2022, donc j'ai trouvé ça mignon quand il lui dit, je déteste que les dieux m'aient fait comme je suis, sous-entendu homosexuel, et qu'elle dit, moi non. Ils t'ont fait un homme bien avec un bon cœur, et c'est assez rare. Donc, je suis contente que tu sois comme tu es. J'étais là, une alliée de la communauté LGBTQ,
2022.
On l'adore. C'est quand même, en vrai, j'aime bien leur petit mariage
oui, je suis
ouvert,
d'accord.
Tu vois.
Oui.
Je trouve que ça marche. Est-ce que t'avais repéré c'est qui le gars de Lénore? T'avais repéré qu'il est là depuis l'épisode précédent?
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Carl, là, c'est ça?
Ouais, Carl.
Ouais, ouais.
Carl with a Q. C'est écrit
ouais.
Q-A-R-L.
Et...
qui se fait embrouiller par Corlys, d'ailleurs, parce qu'il gère pas assez Lénore aux funérailles.
Oui, aux funérailles. Et c'est... elle lui dit, quand elle dit, vas-y, viens, on se casse de King's Landing maintenant, elle lui dit, tu peux le prendre avec toi.
Oui. Et c'est là qu'il est un peu moins réfractaire à
voilà.
L'idée, quoi. Parce que quand elle lui dit, on s'en va, le premier truc qu'il fait, c'est le regarder en mode, et c'est pas, on sait que c'est pas le premier amant qu'il perdrait, même si là, il le perdrait moins, définitivement, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que... Ok, on arrive à Daemon et sa capuche.
Bah oui.
Daemon ressort sa capuche. Donc Daemon et Rhaenyra parlent du fait que ça serait... En fourche langue. Du fait que ça serait quand même vachement pratique d'être mariés, que ça leur ferait vachement de soutien, qu'ils auraient vachement de dragons, qu'ils seraient vachement Targaryens, mais que seul petit problème, Daemon, qui était bien prompt à oublier que le polyamour s'est interdit quand lui, il était marié, il passait sa vie à dire à Viserys, « Je me marie à Rhaenyra, laisse-moi faire. » La Rhaenyra, elle dit, on se marie. Il dit, ah bah non, t'es déjà marié. Bon, là, ça a l'air, il a l'air d'être plus pour l'exclusivité. Et il lui dit, bah, il faudrait que Lénore meure. Et Rhaenyra dit, je sais. Et là, est-ce que tu t'es dit, ils vont le buter?
Attends, elle était pas encore mariée à l'époque où.
Non, non, pardon. Quand Daemon voulait se marier avec Rhaenyra, Viserys lui disait, mais t'es déjà marié. Tu
ah
ne
oui,
peux pas te marier avec
oui.
deux femmes. Et il était là, bah, les Targaryens, ils peuvent se marier avec plusieurs femmes. Ils peuvent enfin, on peut se décider, tu vois. On fait ce qu'on veut. On est des fucking Targaryens. On a des dragons, au pire.
Mais...
Et Viserys, il était là. Non, la polygamie, c'est interdit. Et, et ça avait l'air de moins être important, la
j'avoue.
Monogamie pour Daemon à ce moment-là. Mais là, il aimerait bien que Rhaenyra soit célib. On se demande pourquoi. Du coup, est-ce que tu t'es dit, ok, bah, ça y est, ils vont le buter. Ils vont buter Lénor.
Non, non, pas sur le moment. Mais je trouvais ça, en fait, non, il faudrait d'abord qu'il soit mort et tout. Je me suis dit, ben, en fait, ce qu'elle va faire, c'est juste qu'elle va lui l'autoriser à aller faire la guerre et qu'il y a de fortes chances qu'il aille mourir là-bas, en fait, ou voire même qu'il puisse lui arriver un truc de façon un peu par hasard, quoi, tu vois, où il marcherait sur un râteau, il se prendrait un coup dans la gueule.
Un oursin peut-être très empoisonné.
Maybe.
Oui, oui. Mais du coup, est-ce que tu t'es dit, elle va jouer un rôle? Elle va essayer de le
pour
faire
moi, pour
de se débarrasser de lui.
Non, pour moi, elle
ou est-ce
moi,
que
elle,
c'était juste, bah, va faire ta vie, et il se trouve que t'as choisi une vie risquée, donc
voilà.
Si jamais tu décèdes, c'est pas très grave,
c'est ça.
Quoi. Mais vu qu'il venait de lui proposer de rester avec elle, tu t'es dit, bah, elle va lui dire non.
Ouais.
Elle va lui dire, pars avec ton gars.
C'est d'abord, c'est le premier truc qui m'est venu.
Ok. Alors moi, dans le bouquin, je vous le dis, dans le bouquin, Lénore, il meurt. Il meurt, il y a pas de doute, il y a pas de ah peut-être qu'il est parti sur la mer avec son amoureux, il meurt, il se fait planter par Carl son amant dans une bagarre de taverne donc avec plein de témoins. C'est confus, on sait pas trop pourquoi. Genre est-ce que c'est juste une bagarre de taverne, Carl qui était bourré, un truc peut-être de jalousie, ou il était peut-être jaloux parce que Lénore avait peut-être un autre amant ou voulait le quitter. C'est possible, mais selon Mushroom Champignon, le narrateur le plus fiable de House of the Dragon qui est un bouffon nain de Rhaenyra, ce serait Daemon qui aurait commandité la mort de Lénore pour que Rhaenyra soit disponible une fois que lui, il était veuf. Donc, il y a quand même cette idée de... C'est peut-être l'un des deux qui l'a commandité.
Daemon à capuche, donc.
Daemon à capucha, bien sûr. Le Dark Daemon, c'est facile quand il a une capucha, c'est le Dark Daemon. C'est vraiment débile, ce capuchon. Mais bon, il y a des côtés un peu enfants, des fois, dans le chara-design. Je suis là, oh non, il a mis sa capuche de méchant. On va dire les blondinés, ça se reconnaît. Ok. Donc, moi, je sais que Lénore, il meurt dans le bouquin. Et donc, je me suis vraiment dit... Ils sont en train de faire que Rhaenyra elle bute Lénore avec Daemon pour pouvoir se marier. C'est ultra dark, j'adore, parce que un des thèmes de House of the Dragon, c'est qu'il y a personne pour qui on peut, il y a pas de gentil, il y a pas de méchant, et on passe sa vie à changer d'allégeance, et que dans le même épisode, on passe de Alicent, c'est la pire meuf, je suis team Rhaenyra de ouf et tout, à ah non, Rhaenyra elle a fait buter Lénore alors qu'il vient de lui dire, je vais être dans ta team, je vais être un bon mari, c'est trop, je la déteste, et du coup, tu sais jamais sur quel pied danser, mais je suis quand même très contente de la surprise que j'ai eue. Et je pense que du coup on va conclure l'épisode avec ça, mais je pense qu'elle elle s'illustre à la fois en interne et en externe de cette série. C'est intéressant ce choix qu'ils ont fait. Juste avant, on a une petite scène, Larys, Alicent, sur un bateau, où Larys vient dire à Alicent, si tu veux un œil, t'inquiète bébé, ça s'arrange. Donc lui, il n'a aucune forme de discrétion. Il n'est pas dans de la demi-mesure, il n'est pas dans de la subtilité, il est vraiment en mode, si tu veux, je te fais une facture, crever un œil. Ça passe en presta dans la compta du mois prochain. Il y a pas
j'ai, j'ai un compte auto-entrepreneur. Ça...
il n'y a pas TVA et tout, c'est donc vraiment, et effectivement, comme tu dis, Marty, même Alicent est mal à l'aise, quoi. Vraiment, elle est là, mec, arrête de proposer des trucs dégueulasses comme ça.
C'est étonnant.
Oui, et en plus, elle a... En fait, j'aime bien sa relation parce qu'elle a peur de lui. Maintenant, je trouve qu'elle a l'air d'avoir peur de lui, maintenant qu'elle sait de quoi il est capable.
Mais en fait, je comprends pas pourquoi elle le fout pas dans un cachot et basta, quoi, tu vois, c'est juste...
Parce qu'elle a pas d'allié, elle a pas
le mec
grand
est dangereux, quoi.
Oui, mais elle a besoin d'un mec dangereux. Elle a qui ? Elle a son
baron ?
Oui,
mais en fait, ce mec dangereux, il va se retourner contre toi d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard.
Tout le monde a des mecs dangereux, tu vois.
C'est, j'avoue.
Ils ont Littlefinger, ils ont Varys, ils ont...
Auto-entrepreneur.
Pas mal. Auto-entrepreneur !
Bien joué.
Ah, j'adore toutes les vannes avec auto, mais ça marche avec tout en vrai, automatique et tout. Ouais.
Allez.
Oh là là, qu'est-ce qu'on rit avec Otto Hightower. Ravi que ce soit de retour, ça va faire des super vannes dans le récap rigolo, je sens.
Nul.
J'espère que vous aimez les jeux de mots. Donc oui, moi je trouve ça intéressant qu'elle ait peur de lui et je comprends pourquoi elle se débarrasse pas de lui. Et dans Game of Thrones, il y a quand même beaucoup, et dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples de on s'entoure d'un serpent en espérant de pas se faire mordre soi-même et peut-être qu'on finit par se faire mordre soi-même. Je vous dis pas, il se passera plein de choses a priori intéressantes avec Larys, mais j'ai trouvé ça. Ils insistent vraiment sur leur lien. Deux fois dans l'épisode, on rappelle que il est avec elle, il travaille pour elle, il est prêt à tout. À voir, mais vous savez qu'il faut garder un œil sur Larys Strong. Et ensuite, on a donc le plot twist, mon gars.
Ah bah
le
oui.
Plot twist. Du coup, Daemon, il va voir Carl. Il lui dit, tu sais, il y a des endroits où, en gros, il le taunte sur le fait que Carl, il n'est pas de haute naissance, parce que c'est juste un cerf, donc c'est juste un chevalier, c'est pas un noble, c'est pas un lord. Et il faut savoir aussi que quand Corlys, il va engueuler Carl parce qu'il a pas assez géré Lénor, qui est avec de l'eau à mi-cuisse en train de penser à rejoindre sa sœur au fond de la mer, là. Il lui dit, il utilise en anglais le mot patron. Your patron, oui. Retrieve your patron.
C'est comme sur Patreon, quoi.
Comme sur Patreon. Abonnez-vous à mon Patreon pour devenir mes patrons. Merci.
Voilà.
Fabrice était mon patron, il peut vous dire, c'est une expérience super.
Ouais. J'ai été son premier patron sur Patreon.
C'est vrai. 100% des patrons valident l'expérience patronée Mimi. Merci beaucoup, Isaac. Et en fait, patron, justement, ça donne l'idée de c'est un homme qui te payait. Et du coup, il sous-entend aussi peut-être que Carl est le gigolo de Laenor, qu'il est un peu un toy boy, tu vois, qui paye pour être avec lui, et pas un amour une amitié véritable. Il l'insulte un peu. Mais Corlys est un peu homophobe. Hein. Corlys est en mode, mon fils, il est pas gay, ça va lui passer. Oui. Donc, Corlys, on peut pas être bon en tout. Il est pas woke en tout, quoi.
Non.
Il est super aventurier marin, c'est déjà bien. Autopromo, mes chansons. Je vous ai vu faire autopsie tout à l'heure, c'était très, très réussi. Donc, il taunte Carl sur le fait qu'il est pas noble, que c'est juste un cerf, et il lui dit, tu sais, il y a des endroits dans le monde où ce qui compte, c'est pas ton nom, c'est combien d'or t'as. Et Carl est là, vraiment, quelle transaction tu me proposes, en fait? Je sais pas de quoi tu parles, on se connaît pas, on s'est jamais parlé, et je sais que t'es chelou. A quick death. Et là, alors, ça part. Il y a Daemon qui met à lire un gars comme ça, là, dans l'escalier, on sait pas qui c'est.
Pourquoi faire?
Il y a Lane, parce qu'il leur fait un corps, finalement. Mais
ça,
moi, je me suis dit, c'est juste pour, tu vois, comme dans Metal Gear, c'est pour que les gardes, ils t'entendent pas, quoi.
Oui.
C'est pour pas se faire repérer, pour que la voix soit libre. Mais en même temps, il lui a dit, il faut une mort rapide avec des témoins. Donc, je suis là, peut-être tu es pas les témoins, tu vois, c'est compliqué. Il y a Carl, et du coup, je me suis dit, ok, donc Carl, il va tuer Lénor chez ses parents, c'est hyper triste et tout, à l'enterrement de sa sœur. Bon, finalement, c'est quasiment ce qui se passe. Rhaenys, elle passe un sale mardi, hein, c'est très compliqué.
C'est pas très bien pour elle.
Et j'ai pas du tout vu venir que c'était un fake out, et même quand on montre, alors dans des podcasts que j'ai écouté, il y a un des gars qui a pas lu les livres, donc il avait aucune idée de est-ce qu'il meurt ou pas, qui a dit, quand j'ai vu le corps carbonisé dans la cheminée, j'ai fait c'est pas lui. Parce que à la télé, quand on reconnaît pas le corps, c'est jamais lui, c'est évidemment pas lui. Donc il a pas été surpris que Lénor soit vivant à la fin, parce qu'il a dit, si le corps il a été foutu dans la cheminée, c'est pour pas être connu, du coup, c'est pas vraiment lui qu'ils ont tué. Et ils font passer un autre corps pour le sien, j'étais là, franchement, respect. J'ai vu pas mal de séries télé, mais moi, je l'avais pas, peut-être parce que je pensais qu'il allait mourir. Et du coup, c'est ça qui s'est passé, c'est que ce serviteur qui a été tué par Daemon, il y a quand même eu un mort, et il a quand même été tué à main nue par Daemon Targaryen. Je vois des gens qui sont là sur Internet en mode « Ah, un crime sans victime !» Je suis là, si vraiment il y a une victime, hein, c'est juste pas quelqu'un de noble, mais il y a une victime, qui devient officiellement Fëanor Targaryen. Et Karl et lui prennent la fuite. Est-ce que t'as kiffé? Est-ce que toi, du coup, qui savais pas, tu l'as vécu un peu comme un...
Ouais, j'ai trouvé ça cool.
Twist un peu à l'OTAN, ouais, ou est-ce que sûr. Tu t'es dit, ah, c'est cheapos
Non, non, j'ai trouvé ça cool et je me suis dit, d'un côté, je trouve ça cool que Rhaenyra finisse par finalement lui sauver la vie, parce que l'air de rien, on peut se dire qu'ils auraient pu décider
s'éloigner
autrement.
S'éloigner de tout ça, c'est très bien pour lui. Hein.
Et mais d'un autre côté, je me dis, ok, peut-être, alors c'est sans doute pas le cas dans les livres, mais que... Ok, donc en fait, le mec... Enfin, voilà un secret de plus.
Oui.
Et voilà une
c'est
branche
trop bien comme secret.
Potentielle qui s'ouvre en plus.
Et c'est un Targaryen, donc a priori, il va pas faire d'enfant. C'est bien un des problèmes qu'il a. Mais il a du sang... Il y a un Targaryen. Quelque part dans le monde, puisqu'il a du sang Targaryen par sa mère, Rhaenys. Et c'est toujours intéressant qu'il y ait un Targaryen quelque part dans le monde qui, en plus, a un dragon. Quand même. Est-ce que t'as pensé à son dragon? Est-ce que tu t'es dit quid de
non,
son dragon? T'avais
tout.
Oublié qu'il en avait un.
Oui.
Alors moi, je suis contente parce que ça veut dire que vous suivez toutes les bêtises qu'on vous raconte avec Tequila Tex et tous nos trucs de nerd. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, ok, mais quid du dragon de Lénor? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis là, c'est bien. Vous suivez.
C'est vraiment
les
en train de monter une secte de nerd, quoi, tu vois.
On était déjà beaucoup en vrai, hein,
oui.
Qui ont lu les livres de Jean-Jacques Martin. Mais bienvenue, on est encore plus nombreux maintenant. du coup, alors on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le dragon de Lénor. Alors il n'y a pas de truc GPS, enfin peut-être qu'il va le suivre. Et que ce sera un mystère de Lénor est mort et son dragon est parti. Ce qui arrive, genre Vhagar, elle avait une rider avant Lena qui est décédée. Et du coup Vhagar est redevenu sauvage. Peut-être que ce sera un mystère de plus personne arrive à dresser le dragon de Lénor après sa mort. On se demande pourquoi. Bah en fait c'est parce qu'il n'est pas mort. Peut-être que ça va mettre la puce à l'oreille de quelqu'un, de Rhaenys par exemple, sa mère qui est aussi Targaryen et qui a aussi un dragon qui va se dire... Peut-être que mon fils est pas mort finalement et que ça va lui donner un petit peu d'espoir. Peut-être que, en fait, et c'est vraiment pas un spoiler parce que j'en sais rien, en fait, épisode précédent, on voit Lénor qui se bat aux Stepstones ou qui se fait planter par Karl et c'est une fin hyper douce amère de, il a eu, il s'en est sorti, en fait, tout ça pour mourir comme un con, tu vois, et du coup, il y aura plus de problème avec son dragon. Mais effectivement, a priori, personne ne peut chevaucher Seasmoke, le dragon de Lénor, tant que Lénor est vivant. Ça veut pas dire que son dragon va le rejoindre en mode téléguidé, mais il peut se barrer, le retrouver, il peut ne pas. Encore une fois, c'est pas vraiment des chiens, c'est pas hyper précis, mais en effet, a priori, personne d'autre ne peut monter dessus. Bravo, vous avez bien suivi. Je pars du principe que Lénor devrait pas être plus important dans l'histoire que ça, vu que dans le bouquin il meurt là, mais en vrai, je serais trop contente s'il revient, ou qu'on a un moment... une idée de ce qu'il est devenu, tu vois, c'est un moment où on entend parler, je sais pas, d'un seigneur aux cheveux gris d'au-delà des mers, tu vois, je serais là en mode yes, my
il
guy
est rasé.
Lénor.
Il s'est rasé la
il
tête.
Il s'est rasé la tête.
Il va devoir garder la tête rasée. Parce que c'est...
Sauf s'il va assez loin, là où personne n'est jamais allé et où ils savent même pas qu'il y a des Targaryens, peut-être. On en parlera avec Tequila Tex. Ah oui, ou alors il montre pas sa mort à l'écran, mais dans quelques saisons, le dragon se fait apprivoiser par quelqu'un. Ce qui serait une bonne façon de vous dire il est mort, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Mais un jour, quelqu'un arrive à dresser son dragon, et tout le monde fera « Ah, oh, c'était le dragon le plus indressable du monde !» Et en fait, non, c'est juste qu'il avait déjà un rider. Maybe. Comment Vhagar est revenu à Westeros sans Lena? Vhagar a Aemond maintenant, et aussi les dragons, ils savent où ils habitent, hein, globalement. Ils ont pas besoin d'un humain pour les diriger, ils peuvent aller où ils veulent. Donc ils savent, ils connaissent les bails. Je pense que c'est ça. Il y a une vanne qui dit que c'est le premier Unsullied. J'espère pas, c'est triste les Unsullied. C'est les esclaves qui se font castrer, là, les gars de Daenerys, tu sais. Qui sont gentils, mais c'est triste, quoi. Ok, est-ce que t'as des choses à ajouter sur cet épisode? Sinon, je fais un petit tour des questions précises auxquelles j'ai pas encore répondu. Et on
non,
est...
mais j'ai trop hâte de la suite, en
ouais.
vrai.
Ouais, t'attends quoi de... Parce que là, il nous reste que 2 épisodes.
Bah ouais.
Non, 3. 8, 9, 10.
Oui.
Est-ce que t'as une idée de sur quoi ça va finir? C'est quoi les enjeux immédiats, là?
À mon avis, ça va finir sur... Ok, ça va, c'est vraiment le début de la guerre. C'est-à-dire que pour moi, tout...
Tu penses que ça va finir en baston de dragon, genre?
Ouais, mais en fait, en gros, pour moi, ça va finir en baston de dragon, mais qui va être...
Je pense que l'épisode 9, c'est baston de dragon,
qui
et
va
épisode
amener...
10, c'est les cendres, tu vois. Pas les cendres finales, mais genre... Les conseils, enfin,
oui.
L'ampleur émotionnelle de cette baston de dragon, quoi.
Et pour moi, c'est le setup de la guerre de succession, quoi. C'est évident.
La danse des dragons. On m'a demandé est-ce qu'il y a. Alors, est-ce
pourquoi
que ça
tu dis depuis tout à l'heure la danse des dragons?
C'est le nom de cette période de l'histoire de Westeros. C'est la danse des dragons, le moment de l'affrontement entre différents Targaryens pour la succession du trône. C'est la danse des dragons.
Et pourquoi ils n'ont pas appelé la série la danse des dragons?
Pourquoi ils ont appelé Game of Thrones et pas Song of Ice and Fire?
Ah.
On ne sait pas, c'est pas le nom.
Okay.
Mais c'est pas grave, en France ils l'ont appelé le trône de fer, donc finalement.
Oui.
peut pas être bon en tout.
J'avoue.
Ok, alors, oui, grosse question quand même qui est beaucoup revenue, c'est dans cette histoire de Carl, Lenor, Rhaenyra, Daemon, qui est au courant de quoi ? Est-ce que Rhaenyra croit qu'il est mort ? Est-ce que Daemon croit qu'il est mort ? A priori, non. Est-ce que Lenor savait qu'il allait être sauvé ? Ou est-ce qu'ils l'ont assommé et ils l'ont sauvé ? Est-ce qu'il était dans la conspiration ? Genre, ok, on va faire semblant de se battre et tout. Ben, je sais pas. Je peux pas vous dire parce qu'encore une fois, dans le bouquin, ça n'arrive pas. Moi, ce que je pense... c'est que Lenor était pas au courant avant. Je pense pas qu'ils se sont mis d'accord avec Rhaenyra pour concocter ça. Je pense que c'est Rhaenyra et Daemon qui ont décidé ça et que c'est Carl qui l'a présenté à Lenor. Je sais pas en vrai. Je sais pas. J'arrive pas à imaginer comment ils se sont mis d'accord. Mais du coup, je peux pas vous dire. Peut-être qu'il était dans les bails dès le début. Peut-être que c'est Rhaenyra et lui qui en ont parlé, tu vois, en mode, et si on faisait ça? Ah, mais non, parce qu'il lui avait proposé d'être à ses côtés et tout.
Pour moi, c'est Daemon qui va voir Carl et en gros qui dit bah voilà l'idée et tu mets Lenor dans le coup quoi.
Ou alors.
Et en fait, ça se fait. Rhaenyra est pas au courant quoi.
Pour moi, tu penses que Rhaenyra elle l'a fait buter.
Alors Rhaenyra est au courant, tu vois, mais juste elle est pas du tout dans le... pour moi c'est un triptyque qui joue après dans l'action quoi, tu
vois. OK. Elle est là, il faut qu'il passe pour mort.
Ouais.
Mais tu penses pas qu'elle l'a vraiment fait buter du coup ?
Non.
OK. D'accord, parce qu'elle aurait pu dire à Daemon il faut le tuer, et Daemon oui. Il le fait disparaître, mais elle Rhaenyra elle pourrait ignorer qu'il est pas mort, tu vois. Elle est pas obligée d'avoir l'info.
Oui.
On sait pas qui a commandité quoi et il y a beaucoup de gens qui étaient là, OK. Qui est au courant de la partie de ce plan et tout? Je pense que tous les participants sont au courant. Il y a personne qui va être entre Rhaenyra, Daemon, Lenor et Carl. Tout le monde savait à peu près c'était quoi le plan. Et personne va tomber de sa chaise sur le fait que Lenor est vivant.
Je crois pas.
Rhaenys, peut-être. On m'a demandé... non, je vais pas dire celle-là parce que c'est peut-être un spoiler. Donc ça va. On n'a pas parlé quand même du mariage valyrien. À la fin, j'ai oublié de le noter tellement il est obvious. Mais du coup, oui. Rhaenyra et Daemon Targaryen se marient. Ils aiment bien se marier de façon précipitée dans cette série. Hein. Ça va toujours très vite après un événement tragique. Donc là, c'est enterrement tout mariage, real quick. Et alors, on a un petit point sur les symboles de ce mariage valyrien, puisque c'est la première fois qu'on voit un mariage dans la tradition de Valyria dans Game of Thrones. J'étais ravie, car j'aime bien la culture et les rituels, comme je t'ai dit. Et du coup, il y a une chose assez notoire qui se passe, c'est que ils se dessinent, donc il y a une symbolique de sang, évidemment, qui est très présente. Ils se coupent mutuellement la paume avec du dragon glass, du ver dragon, qui est de l'obsidienne. Ils se coupent les lèvres aussi pour se mêler leur sang quand ils s'embrassent. Et ils se dessinent avec leur sang chacun un sigle différent sur le front. Et en fait, c'est une version stylisée des runes valyriennes pour feu et sang. Voilà. Et j'ai cherché, est-ce que c'est un mariage qui est validé par la fédé ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un prêtre, un septon, pour le célébrer ? Eh bien, écoutez, je sais pas trop. Du coup, j'ai essayé de voir s'il y avait... Alors, il y a un mestre, ce qui est sûr. Voilà, je vous mets ça. Est-ce que c'est ça ? Oui. Je vous le mets dans le chat. Bah non, je vais vous l'afficher, c'est beaucoup plus simple. Hop. Hop. J'arrive. Je suis là. Voilà. Donc, c'est les symboles pour Fire et Blood qui se mettent mutuellement sur le front.
C'est
vous
beau.
Le saurez. Oui, est-ce qu'il y a un septon qui officie à ce mariage ? Est-ce que il a une forme de légitimité religieuse, voire légale ? Est-ce que Viserys est au courant ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. J'ai tendance à dire que peut-être Viserys va l'apprendre dans l'épisode d'après et avoir le seum, parce que clairement, je pense qu'on l'aurait au moins vu essayer de s'y opposer. Je pense que c'est un truc qui est fait dans la précipitation, et c'est pas la première fois que des Targaryens se marient dans la précipitation et se disent on le fait, c'est un peu ils se marient à Vegas quoi, on le fait maintenant et ensuite une fois que c'est fait c'est quand même plus simple. Pour peu qu'on consomme le mariage, pour peu que Rhaenyra elle soit assez vite enceinte d'un quatrième loustique, en fait quand c'est fait c'est fait, et en plus il va faire quoi Viserys ? Il va taper par terre, on sait pas, tu vois, il sert à rien. Donc il y a pas de septon a priori, puisque donc ils sont pas dans la foi des sept, ils sont dans la foi des Targaryens, c'est-à-dire les dragons finalement, ils sont un peu fans de eux-mêmes. Et je me suis demandé si un des gars qui était là c'était un septon ou pas. Donc j'ai demandé à Joanna Robinson, ma podcastrice préférée sur Twitter, et elle m'a répondu non, je pense que c'est un maître. Donc voilà, il y a pas d'éléments religieux ni politiques qui valident ce mariage, mais guess what? Daemon et Rhaenyra ont décidé de se marier, ils ont chacun un dragon, probablement que, du coup, s'ils veulent se marier, j'imagine qu'ils peuvent, quoi. quand même important. On m'a demandé comment les dragons font du feu. Je ne sais pas. Les dragons, c'est magique. Vraiment, on ne sait pas. Pourquoi Alicent est impunie ? On en a parlé. Pourquoi Otto est de retour ? Ah oui, j'ai eu une question marrante. Quand Aegon parle du fait que sa sœur et lui aiment bien les créatures à longues jambes, de quoi il parle ? Il parle du fait qu'elle aime bien les araignées, les insectes et que lui, il veut soulever des meufs. C'est vraiment la seule vanne qu'il a. C'est son intérêt, c'est soulever des meufs. Je sais pas quoi vous dire de plus. On m'a demandé, c'est une bonne question, si Daemon et Rhaenyra ont un bébé, est-ce que du coup ça devient lui le nouvel héritier ou est-ce que les gamins bruns ils passent quand même avant ?
J'y ai pensé.
Les gamins bruns ils passent avant, parce que dire qu'ils passent pas avant, ce serait reconnaître que c'est des bâtards. Et rappelons qu'on n'est pas censé faire... Enfin, si c'est des bâtards, Rhaenyra elle peut être vraiment condamnée à mort, quoi. On n'est pas censé faire des bâtards quand on est la future reine. Donc non, normalement c'est toujours... Si c'est Rhaenyra la reine, c'est toujours Jace, son premier fils, qui devrait hériter du trône, ou Luke si Jace est plus là, etc. Et ensuite il y a Geoffrey, le petit bébé qui est né dans l'épisode précédent, et ensuite seulement il y a le potentiel enfant qu'elle aurait avec Daemon. Mais le fait qu'il soit blondiné ne fait pas normalement qu'il passe devant. Après, des fois les Targaryens ils décident ce qu'ils veulent, mais dans les règles de Westeros, c'est non. On m'a demandé ce que je pense du traitement entre les Blacks, et... enfin des Blacks et des Greens, donc des deux factions ennemies. Je trouve ça, comme je l'ai dit, très intéressant, car on arrive à avoir de l'empathie pour les deux camps, et qu'on commence à avoir se dessiner assez clairement qui est dans quel camp. Et qu'à chaque épisode, c'est un peu plus limpide, genre là. Je trouve que c'est intéressant qu'on ait comment Rhaenys, elle se place, le fait qu'elle soit pas pour que les enfants de Rhaenyra héritent de Driftmark, bah, ça a peut-être posé une scission, alors qu'on aurait pu se dire, elle doit être Team Rhaenyra parce qu'elle-même, elle aurait bien aimé avoir le trône, et qu'elle va soutenir la meuf qui va peut-être y arriver, qui a une Targaryen comme elle et tout. Mais en vrai, elle est un peu saoulée par les bâtards de Rhaenyra. On a le frère de Corlys qui est pas non plus dans la team Rhaenyra parce qu'il est pas pour les bâtards. On a Larys qui est devenu un personnage hyper important dans l'épisode précédent. Donc pour rappel, les Blacks, c'est la team Rhaenyra, c'est la team Targaryen, qui veut donc que Rhaenyra hérite du trône et que ses enfants, légitimes ou non, enfin en tout cas reconnus comme légitimes, héritent du trône après elle. Et les Greens, c'est la team Hightower qui veut que les enfants d'Alicent, donc les blondinés, Aegon en premier lieu, héritent du trône quand Viserys sera mort. Car la bâtardise et le système patriarcal. C'est une défense du système patriarcal à Westeros. Est-ce qu'il y a des rats dans cet épisode ? Il n'y a pas de rats dans cet épisode, mais il y a Larys Strong, donc il y a peut-être des rats dans cet épisode.
Oh.
Et enfin, est-ce que Elena, c'est une dreamer ? Eh bien, écoutez, on dirait que Elena Targaryen, donc la petite blonde, est une dreamer comme son père voudrait l'être, et donc fait des déclarations qui ont l'air d'être prophétiques. Donc, encore une fois, faites attention à ce qu'elle dit, mais ne le googlez pas. Prenez ça comme des petits trucs que c'est un peu... Bon, c'est un exemple un peu éclaté. Bah,
comme
mais...
d'hab, si tu googles quoi que ce soit dans cette série, tu
déjà,
vas te faire spoiler.
Oui. Mais même en règle générale, genre, les prophéties sont faites pour être vagues, elles sont faites pour être interprétées de façon multiple. Toutes les prophéties intéressantes dans la fiction, c'est pas hyper malin de savoir exactement à quoi elles se rapportent. C'est quand ça arrive, tu fais, c'était ça de ouf. Dans Game of Thrones, il y a des gens qui parlent de Jon Snow sans savoir qu'ils parlent de Jon Snow, tu vois. Et toi, au bout d'hyper longtemps, t'es là, attends, la prophétie sur le feu et machin, c'était Jon Snow. Vous avez parlé de Azor Ahai, le prince qui a été promis et tout. Vous avez suivi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. On a fait le tour de ce fabuleux épisode 7.
C'est super.
De House of the Dragon. J'ai hâte, tellement hâte, de l'épisode prochain qui, normalement, devrait continuer à creuser des thèmes dont, évidemment, on a parlé. Et dont on a parlé dans cet épisode, mais qui sous-tendent la série. Et je connais juste le titre de l'épisode, donc je vous en dis pas plus. Mais ça devrait être cool. Quand il y a des scènes coupées, est-ce que tu les considères comme canon ? Oui et non, parce qu'à la fin, elles sont pas dedans. Mais je sais qu'il y a plusieurs scènes coupées assez importantes. Il y a une scène coupée de l'épisode précédent où Daemon réconforte ses filles après la mort de Lena. Ce qui est cool parce que là, il y a juste une scène où il les abandonne sur le toit. Oui. On dirait vraiment que c'est un connard, alors qu'en vrai, il leur fait un câlin, c'est mignon. Et il y a une scène dans l'épisode précédent où Daemon est clairement présenté comme potentiellement bisexuel. Bon. Perso, ça me surprend zéro. Je suis là, c'est un mec qui a l'air d'être un kiffeur. Il croque la life, tu vois. Il est genre au Burry de Martel et tout. Peut-être qu'il soulève des gens. Donc si vous parlez d'autres scènes coupées, je ne sais pas, le rôdeur, à quoi tu fais référence, mais je m'y appesantis pas trop parce que à la fin, c'est pas dans la série et j'essaie quand même de m'arrêter sur ce qu'il y a dans la série, quoi. Si je rajoute les scènes coupées, les behind the scenes, les bêtisiers et les notes de bas de page des scénarios, ça va faire beaucoup. J'ai déjà le livre et la série. Le générique, il a évolué depuis le début. Oui, il a évolué. J'avais mis les notes du podcast de l'épisode précédent. J'ai mis un lien vers un thread de la garde de nuit qui explique les évolutions. Ils ont notamment rajouté les enfants de Rhaenyra, les enfants de Daemon et tout, puisque le générique, c'est une ligne de sang qui traverse tous les membres de la dynastie Targaryen. Ok, it's time to say goodbye. T'as kiffé, Fabrice ?
J'ai, merci.
Ah bah merci d'être venu
pour cette invitation.
Merci d'être
moins
un
d'hommes
poisson
que
moins
le grand Teki.
Oui.
Mais plus de questions à la con, sans doute.
Non, pas de questions à la con, beaucoup de questions. Enfin, tu vois, il y a plein de questions plus ou moins évidentes. C'est une série complexe.
Ce micro pèse 14 kilos. Les gens ne le savent pas, mais franchement, oui. Teki.
Fabrice a le canal carpien en douleur totale. Teki lift à chaque fois qu'il vient. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez retrouver tout le contenu de Fabrice sur. Alors, ton site, c'est fabflorent.com ou fabriceflorent.
Fabflorent.
Fabflorent.com. Plein de super podcasts à écouter. Nouvel épisode du Film Club ce dimanche.
Oui!
On va parler d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
Oui!
Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com/mymyhgl.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.